Bonsoir tout le monde! Bienvenue à cette deuxième édition de Connaître la suite. Et pour cette deuxième émission, on a avec nous Danny Quirion. Salut Danny!
Salut man!
En santé, en forme?
Mieux que jamais.
On t'excuse pour la semaine passée, mais tu étais avec nous virtuellement. Mm-hmm. Je suis bien content de t'avoir avec nous ce soir. Parce que, ben, je dirais tout d'abord, c'est ce projet-là de radio, ça t'appartient autant que ça m'appartient. C'est quelque chose qu'on a ruminé,
on a eu
digéré.
On a eu le temps de le ruminer.
Oui, hein. Puis, en fait, on voulait, puis la semaine passée, j'avais promis qu'on en parlerait aujourd'hui parce que je pense que je ne pouvais pas parler de ce projet-là sans que tu sois présent. Ça fait longtemps qu'on se connaît. On s'est connus virtuellement en plus, donc on est des amis du web. Mm-hmm. 2006, hein, je pense que ça a été...
quelque part en 2006.
Et toi, à ce moment-là, t'avais déjà un blog où tu avais des billets assez fréquents.
Ouais.
Et moi, de mon côté, ben, je commençais avec mon premier petit projet de radio, là, une radio de sous-sol. Mm. Et c'est ça, on a eu des premiers contacts. Moi, j'ai découvert un Danny Quirion qui avait une plume assez particulière. Puisqu'il faut se ramener aussi en 2006, où à ce moment-là, on était un peu sur la vague adéquiste, hein, où bon, il y avait comme une certaine montée. Bon, on peut dire ça de la droite. Et à quelque part, on s'est rejoint pour nos premiers projets, où on avait déjà à ce moment-là l'idée, je pense, de dénoncer un peu, de décrier un peu aussi l'appareil politique, de remettre en question le modèle. Parce que je me souviens de tes premiers billets où tu démolissais carrément nos institutions.
Pas démolissais, mais j'ai regardé avec un autre œil peut-être.
Ouais, ben c'est ça. Quand je veux dire démolir un peu les conceptions, les idées préconçues qu'on peut avoir assez souvent. Donc, troisième côté de la médaille, hein. Tu faisais un plaisir aussi de défaire les spins. Les spins, parce qu'il y en a de nombreux, hein. Puis je sais que ça, c'est ton gros dada, et à l'émission, tu vas traiter assez souvent aussi de sujets qui vont mettre peut-être en évidence des spins, parce qu'il y en a, hein, des spins médiatiques.
Médiatiques et politiques, beaucoup, hein.
Ben, politiques, oui.
Ça, c'est des formules déjà toutes prêtes. Tu sais que. On sait que s'il y a un sujet qui arrive dans l'actualité, on sait déjà les angles avec lesquels ils vont être traités. Là. Moi, ces aspects-là, je me dis, les spins, ça peut permettre d'essayer de nous bullshiter un peu. Mais ça peut être un signe aussi de gens pour qui l'effort de réfléchir un peu avant de se prononcer, ils n'ont pas cette capacité-là ou cette volonté-là de mettre un petit peu d'effort, de dire, hey, au-dessus. On peut regarder les choses en surface, mais si on prend le temps de les analyser à froid, là, on a-tu vraiment le message qu'on entend, il est-tu suffisant, il est-tu complet? C'était ça qui m'achalait un petit peu, puis écrire là-dedans. Là.
Parce que ça jouait beaucoup dans l'inconscient collectif, puis toi, à quelque part, comme tu dis, ça t'interpellait parce que tu dis, écoute, moi, j'ai vu un côté de la médaille qu'eux n'ont pas vu, puis je vois aussi, comme tu dis, il y a des patterns là-dedans, puis je me souviens que excusez l'anglicisme, mais t'étais pas mal right on là, sur tes prédictions ou sur ton analyse. Ça arrivait assez souvent. Puis ça, là-dessus, je pense que c'est ce qui, en tout cas moi, ce qui m'a fait découvrir aussi justement tout cet aspect-là de on peut dire de manipulation de l'information.
Je sais pas si c'est vraiment dans tous les cas, je sais pas si c'est vraiment de la manipulation. C'est comme je te dis, mais des fois j'ai l'impression que c'est un manque d'effort intellectuel. De pouvoir approfondir les choses. T'sais. Dans certains cas, oui, quand on parle de spin politique, il y en a que c'est leur métier carrément. Là. Ce sont des spin doctors, ce qu'on appelle. C'est des gens qui sont là pour influencer le message. Puis moi, c'est comme j'ai déjà écrit ou dit, c'est que les spin doctors existent. Je comprends ça, c'est la game. C'est la game politique. Mais de voir certains journalistes se contenter de répéter le message du spin doctor, mettons, du Parti libéral ou du Parti conservateur. Moi, je trouve que l'effort intellectuel qui manque vient de la part des journalistes dans ce temps-là. T'sais, je me rappelle très bien, lors du débat des chefs en 2007, on se jasait probablement.
Ouais,
ça,
ouais.
On se jasait live. Ouais, là, ouais. Et c'était incroyable. Là. Ce qu'on avait vu dans le débat versus la couverture médiatique des bulletins de 22h, 22h30, c'était... What? Ça correspond pas du tout. Mais on apprenait le lendemain là, qu'il y avait certains messages qui avaient été lancés par les spin doctors pour influencer des journalistes. Et qu'il y a certains journalistes qui ont carrément pris ça, puis ils ont gobé le message.
Ouais.
Puis ça, moi, c'était cet aspect-là qui me disait que les politiciens s'essayent, c'est une chose, mais que les médias ne se forcent pas plus que ça, puis ils partent avec le spin qui est fait par les gens, justement, que c'est leur métier. Là, tu dis, écoute, il y a un manque d'effort de ce côté-là. Fait que moi, j'écrivais beaucoup là-dessus, ces aspects-là, les spins culturels aussi, là, qui sont les formules toutes faites qui disent que, exemple, dans le débat, je pense que c'est en 2008, les élections, où est-ce qu'il y avait eu les supposés coupes à blanc du gouvernement Harper en culture, ben c'était à peu près, peu importe l'artiste qui était interviewé, c'était toujours le même message. C'était 0,5% de coupes, c'était des coupes à blanc, tu sais, dans la culture, que ça allait tuer la culture francophone. Il y en a qui sont allés jusqu'à dire une Anne Dorval qui a dit que la culture, c'était le poumon d'un peuple. Tu dis, hey, wow, les nerfs, là,
oh, oui.
On peut-tu revenir à la base que c'est pas vrai que c'est des coupes à blanc, 0,5%? Et en plus, que si c'est des coupeurs dans de l'administration inutile qui avait été fait, c'est quoi 0,5%?
Ben, c'est ça.
Ça change rien, tu sais. Ça change absolument
C'est
rien.
Le 0,5% de quoi qu'on coupait?
C'est ça, t'sais. Exactement. Donc là, c'était, en plus, ce qui me faisait rire à l'époque, c'était toujours les mêmes exemples qu'on donnait. On dit, ah, mais là, si on n'a pas ces subventions-là, ça va être qui le prochain Cirque du Soleil? Ça va être qui le prochain Théâtre des Gros Becs? C'est toujours les mêmes exemples. Là, tu dis, s'ils prennent toujours les mêmes exemples, c'est peut-être parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'exemples, justement. Sinon, ils pourraient nommer plein d'autres artistes qui ont réussi, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc,
ouais.
Ils prenaient toujours les mêmes exemples. C'était toujours les mêmes noms qui revenaient. Aujourd'hui, on utiliserait probablement Cœur de Pirate qui réussit en Europe. Probablement qu'on utiliserait les noms de Pierre Lapointe. C'est toujours les mêmes exemples.
Effectivement. Puis c'est intéressant parce que tout ça a amené à mettre sur pied une radio dont tu as animé. Puis j'invite les gens d'ailleurs aussi à consulter ces archives-là qui sont toujours disponibles. Puis à quelque part, c'est ça. On s'est senti interpellé par le vide un peu peut-être médiatique par rapport justement à cette analyse, je veux pas dire plus approfondie, mais différente ou avec un œil un peu différent. Puis on voit qu'aujourd'hui, de toute façon, on n'était pas seul. Rapidement, avec la toile, avec le web, ça a été quand même un phénomène de masse où il y a beaucoup de gens qui ont commencé à avoir des blogs.
Presque en même temps.
Oui, c'est ça, des émissions de podcasts, toutes sortes de choses comme ça. Donc, rapidement, on s'est créé une communauté. Puis je pense qu'aujourd'hui, la présence, exemple, du Réseau Liberté Québec ou de bien de mouvements, ça justifie un peu tout ce cheminement-là. Puis la parenthèse qu'on voulait faire ce soir, c'est de dire que tout ça, dans le cas de moi et de Danny, connaître la suite, c'est un peu aussi pas la consécration, mais c'est l'évolution, c'est la suite de tout ça. Donc ce n'est pas un projet qui est né avant hier, c'est quelque chose qui a été mûri depuis fort longtemps. Puis il a fallu se faire les dents, comme on dit aussi en s'exprimant sur des blogs, des billets, d'avoir notre petite émission de radio à petite échelle, puis de voir un peu l'intérêt. Puis ce qu'on sent aujourd'hui, c'est un appui, un intérêt des gens, parce que à travers tout ça, on s'est développé une communauté. D'ailleurs, la semaine passée, Jonathan, qui était présent à l'émission, c'est des gens comme ça qu'on découvre. Puis sur la sellette québécoise, maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont issus de ces réseaux-là, de ces mouvements, et de plus en plus, le citoyen, je pense, s'implique davantage, malgré qu'on voudrait peut-être une volonté beaucoup plus importante de la masse en général, mais on sent qu'il y a des gens qui ont le désir de prendre leur avenir en main, de se responsabiliser. Puis je pense que nous, on en fait partie. Puis le but de l'émission aussi, c'est d'être une tribune pour ces gens-là, premièrement. Puis nous, ensemble aussi, moi et toi, je pense qu'on a la même volonté, celle d'apprendre, de remettre le système en question. Je sais que de ton côté, toi, tu es assez perfectionniste, donc tu veux aussi avoir le topo complet quand on traite d'un sujet. Puis je pense que par tes chroniques, là, puis on va avoir un bel exemple ce soir, c'est d'amener toujours ce volet-là, ce pan de mur qui est parfois, somme toute, dans certains médias ou dans certaines sphères de la société, mis de côté. Je sais pas. Moi, j'ai senti certaines frustrations par le passé. Je pense que c'est comme ça aussi de ton côté, Danny. Puis je pense que l'émission va nous permettre de remettre un peu tout ça en perspective. Puis d'ailleurs, je prends un titre d'exemple, les chroniques qu'on a fait par le passé, je pense que sans dire qu'on a ébranlé le temple, on voit que et l'Internet, on remercie l'Internet assez souvent. Il y a eu une déflagration de certains points. Puis on voit qu'aujourd'hui, ça circule beaucoup des billets sur des blocs. Il y en a qui circulent puis qui ont une portée assez importante. Là, aujourd'hui, il ne faut pas penser que tout ce qui est lu par les gens, c'est uniquement ce qui est dans les médias de masse. Parce que je pense que toi, en tout cas, tu consommes beaucoup, beaucoup d'informations qui ne sont pas nécessairement disponibles comme ça. Monsieur, madame, tout le monde.
Non, c'est sûr.
Ben, je veux dire, dans
les... Je me promène, mais ça, c'est une des belles... En tout cas, pour ceux qui ne sont pas sur Twitter, là, vous manquez quelque chose si vous voulez avoir de l'information alternative. Parce que si vous êtes abonné aux bonnes personnes, là, vous pouvez vraiment avoir des choses absolument qui vont vous permettre d'être en dehors, de lire que ce qu'il y a sur les médias traditionnels. Vous allez vraiment avoir accès là, à toutes sortes de textes. Moi, j'ai découvert, justement, une des chroniques là, de ce soir, là, qui est un site web que je connaissais pas et que une des personnes que je suis sur Twitter a posté un article là-dessus. Et aussitôt que j'ai lu ça, j'ai dit « Mon Seigneur, c'est donc bien hot ».
Effectivement.
Je m'abreuve de ce type d'article-là qui est différent, qui fait que c'est pas du fast-food de l'information, c'est très travaillé, puis il se fait du bien, ça, un peu, de sortir de l'accident sur l'autoroute 40 ou de certains blogueurs professionnels dans les journaux traditionnel, qu'on est capable, juste par le titre, de savoir ça va de quoi sur leur opinion. Là. Fait que ça fait, c'est le fun de voir que des fois, c'est des gens qu'on connaît pas vraiment, mais qu'on sait qu'ils sont intéressants à suivre sur Twitter, qui nous envoient un article. Puis là, tu te dis, mon Seigneur, c'est bien intéressant. Tu lis ce qu'il y a sur ce site web-là. Des sites web probablement carrément là, non financés, puis qui réussissent à envoyer de l'information très intéressante. Là.
Oui, effectivement.
C'est une belle possibilité.
Ben, Twitter est une super de belle plateforme pour ça. Puis encore là, chaque plateforme a ses forces et ses faiblesses, mais je pense que c'est l'utilisation qu'on en fait. Puis le Twitter, je le vois aujourd'hui comme le blog il y a de cela 3-4 ans. Oui. Parce que maintenant, tu sais, oui, le blog est intéressant, mais le blog, pour la diffusion, reste quand même assez limité. Il faut le connaître, le blog. Et quand tu te construis un réseau, sur Twitter en plus, il y a moyen de se créer des références par affinité, puis ainsi de suite. Donc, rapidement, puis je le dis aux gens, l'opportunité est là, vous avez les possibilités, et on a un devoir en tant que citoyen aussi. On a un minimum d'investissement, je dirais, hein, intellectuel ou de la recherche un peu à faire si on veut vraiment se documenter, puis on veut vraiment puis on en parlait la semaine passée, c'est d'avoir un éventail, tu sais, de possibilités, d'opportunités par rapport aux solutions qu'on apporte, parce qu'assez souvent, on est assez au Québec campé dans des camps, et je pense que c'est un peu des fois, je dirais, c'était un peu pénalisant pour les gens parce que on se trouve avoir des discours qui manquent un peu de profondeur ou d'ouverture sur des solutions. Et les réseaux sociaux sont là pour promouvoir ça. Puis notre plateforme, à nous, ben, c'est la radio. Et soit dit en passant, tu viens de parler du Twitter. Nous, on a notre Twitter aussi, donc qui est Connaître Suite. On enlève le « la », donc il n'y a pas de « connaître la suite », c'est
«
connaître
suite ».
Par manque d'espace. C'est un peu le défaut de Twitter.
Ouais,
hein?
Là-dessus, là.
J'aimerais ça qu'ils nous donnent de temps en temps un ou deux caractères de plus, parce que ceux qui n'utilisent pas Twitter, vous allez me comprendre, ceux qui l'utilisent pas, vous ne me comprendrez pas, mais ceux qui l'utilisent, là, effectivement, des fois, là, et ça demande une gymnastique là, hein, de résumer là, ce qu'on a à dire en quelques caractères. Donc, on ne peut pas partir sur un téléroman, là. Donc, il faut aller right to the point, puis il faut vraiment mettre le but du message, là, parce que sinon, il n'y aura pas d'intérêt. Puis, ce qui est le fun avec les tweets, on peut les retweeter, là. Donc, rapidement, on n'a pas nécessairement...
Puis moi, personnellement, là, les gens que je suis, là, j'ai très peu de personnalités publiques connues dans moi, c'est pas mon intérêt, c'est pas ces gens-là que je veux suivre. Mais je vais te donner un exemple, là, que je m'étais abonné, puis que je me suis désabonné... Je sais pas, mettons dans le sport, j'étais abonné à François Gagnon de La Presse un moment donné, pendant 2 semaines. Puis je me suis tanné, c'était, exemple, pendant un match de hockey, là, ça tweetait sur quasiment chaque passe qui est fait, un arrêt de tel goaler, tout ça. Ça m'intéresse pas de savoir
non,
ça.
Non, c'est ça.
T'sais, c'est peut-être qu'ils ont le réflexe de toujours avoir leur BlackBerry puis de tweeter. C'est pas ce genre de monde-là moi, que je veux suivre. Donc, des personnalités vraiment publiques mainstream, là... Il faudrait que je vérifie, là, mais si j'en ai 3-4, c'est tout. Là.
Fait qu'on invite ceux qui nous écoutent à s'ajouter à notre Twitter, donc ouais, connaître suite. Puis nous, on relaie là, ce qui était intéressant, en tout cas d'un point de vue de l'émission, connaître la suite, tout ce qui promouvoit justement la liberté, la responsabilité individuelle, c'est sûr qu'on promouvoit ces gens-là, puis on est en train de justement s'imbriquer dans cette communauté-là de gens qui partagent les mêmes affinités, et je dirais que tout va bien, puis c'est le fun, parce que on fait des découvertes très intéressantes, et d'ailleurs, ça c'est ce qui alimente en partie l'émission, parce que c'est à travers ça aussi qu'on sait vraiment ce qui se passe. Tu sais, dans, il y en a qui vont dire le vrai monde, là, mais c'est là qu'on voit là, vraiment le tout le monde en parle est vraiment là, parce que c'est vraiment ce qui alimente les réseaux sociaux. C'est sûr que Facebook est une porte d'entrée aussi, mais Twitter, je pense que pour des gens comme nous.
Puis une des affaires peut-être que moi que je trouve, là, c'est que connaître la suite, c'est un peu un format mature de ce qu'on a fait avant.
C'est moins ça.
Moi, personnellement, j'avais mon émission, toi, t'avais la tienne aussi. Puis des fois, on se permettait un petit peu d'être beaucoup dans l'humour ou dans le délire, là, des fois. Là, mais connaître la suite, c'est un peu l'évolution de ce qu'on a fait chacun de notre bord, mais plus sérieux. Parce que notre but, on en discutait quand on élaborait le show, c'est que on veut pas être les vedettes du show.
Non, pas surtout pas.
On veut entendre le monde. Je te disais, c'est un peu comme les Russes en 70 ou en 72. Il me semble que c'était en 70, ils disaient, on est venu pour apprendre. Là. Ben, on est deux gars qui veut apprendre puis qui veut parler à ces gens-là et qui veut vous les faire connaître, mais aussi, vu que c'est des gens que vous connaissez de plus en plus, les gens qu'on reçoit, ben, au moins, c'est de dire, on veut leur laisser la place. On n'est pas là pour les interrompre, prendre toute la place du show. Non, on veut les entendre, eux. Puis on veut que ce ne soit pas formaté, qu'on n'ait pas besoin d'aller à la pause. T'sais, si c'est intéressant, on continue. Puis on voulait que ce soit un endroit qui parle de responsabilité individuelle, mais vraiment concentré. Là. C'est un 2 heures de ça. On ne tombera pas plus tard avec un autre sujet, on va vraiment tomber dans ce sujet-là, concentré. Donc, c'est sûr que ça intéresse d'avoir un 2 heures compact avec des personnalités que vous aimez ou que vous aimez moins, mais que vous dites, écoute, quand on a la maturité un peu, là, on est capable d'écouter des gens avec qui on n'est pas d'accord, mais on peut essayer de dire, prendre le point qu'une personne amène, puis dire, ouais, il est en train de me convaincre peut-être là, de certains points, ou peut-être que ça va vous conforter dans votre opinion contraire. Ouais,
effectivement.
On sait pas. Mm-hmm. Mais on voulait un show mature, plus mature là-dessus. On vieillit, hein, tu sais, quand même.
Oui, puis quelque part, c'est un peu une forme d'exercice intellectuel, mais pas dans le sens où c'est pas péjoratif, c'est pas un show d'intellectuel. Je me considère pas du tout comme un intellectuel. Mais c'est de dire que c'est pas ici, on va, comme tu as dit tout à l'heure, aller dans l'humour ou à la dérive avec d'autres sujets. Puis c'est voulu ainsi. C'est l'émission est formatée ainsi. Vous allez voir, il n'y a pas de formatage commercial. On n'a pas de restrictions au niveau des pauses au niveau du format de l'émission. Et même, je fais référence à ce que tu disais tantôt, on est venu ici pour apprendre. On avait même un certain malaise de se qualifier, de se donner un rôle. Même le rôle d'animateur, je trouvais que c'était un peu fort parce qu'on n'est pas là nécessairement pour faire de l'animation. Comme tu dis, on est là pour laisser vraiment la place à ceux qui vont venir ici, qui vont utiliser la tribune. Puis, à quelque part, on est des gens qui veulent tout simplement promouvoir certaines idées puis qui vont utiliser les moyens qui sont à leur disposition pour le faire. Puis, c'est intéressant parce que moi, regarde, je partage le micro avec toi, puis je suis convaincu par les années qu'on a passées ensemble qu'on a une vision de la chose qui est assez similaire. Parce que faut comprendre aussi que pour mener un show comme ça, on peut pas commencer à avoir nos petites guerres personnelles puis nos petits problèmes là. Chacun de notre côté. Puis là-dessus, je pense qu'on est derrière la cause. S'il y en a une, mais somme toute, on est...
Puis le concept a 2 ans, hein, c'était en février 2009.
Oui, c'est ça.
Vraiment, là, donc il y a eu vraiment du cheminement là-dedans. Là. On avait fait des émissions Internet seulement dans le temps.
Oui.
Mais le concept est déjà pas mal clair dans la tête.
Puis
il y a juste un aspect qu'on va ajouter aux choses, ça n'a pas à donner à date. C'est l'aspect, on veut recevoir des entrepreneurs de notre âge. Donc des jeunes entrepreneurs, puis promouvoir l'entrepreneurship. Donc c'est présentement, on a lancé quelques perches, puis bon, tout le monde était intéressé tout à aller au même show. Si on voulait, on aurait un show de 4 heures pour la semaine prochaine. Si on voulait, tout le monde disait, nous on peut le 18, mais c'est un aspect qu'on veut amener là-dedans.
On veut l'entrepreneurship,
donc c'est oui des idées qu'on peut qualifier de droite, liberté individuelle, responsabilité individuelle, mais le côté entrepreneurship là, moi ça me tenait bien à cœur ce côté-là, puis ça s'en vient. C'est juste que là le booking fait que bon, c'était toute la même semaine qu'il nous disait oui. Fait que dans les prochaines semaines, vous allez avoir ça. Très important, puis j'invite les gens là qui pourraient peut-être qui partagent un peu nos idées puis qui aimeraient venir parler de leur entreprise, ben, vous pouvez nous envoyer un courriel oui. info@connaitrelasuite.com, puis on va regarder ça avec vous là. Donc c'est un aspect aussi qu'on veut amener là dans l'émission, donc ça va venir aussi là-dedans. Puis là aujourd'hui, ben, on a décidé de faire le show nous deux là, mais inquiétez-vous pas, la formule avec des invités là, c'est vraiment ça notre but.
Oui.
Notre but, c'est vraiment
oui,
ça.
Oui, puis là, c'est un peu la conjoncture qui fait que ce soir, on s'est retrouvé avec un vide total. C'est pas qu'on n'a pas essayé. Et justement, là, on s'est booké des gens pour les prochaines semaines. C'est ça va être un feu déroulant, comme on dit. Hein?
Un feu roulant.
Un feu roulant, déroulant. Donc, là-dessus...
C'est ça, on a du beau booking qui s'en vient.
Oui.
Vous allez peut-être être surpris de nos choix aussi.
Oui, oui, fois. Oui.
Là-dedans. Puis,
puis si vous avez des idées, des gens que vous pensez qu'on devrait inviter, n'hésitez pas aussi à nous soumettre là, ouais, des idées.
Justement une suggestion aujourd'hui.
Oui.
Il faut en discuter après l'émission.
Oui, c'est
là.
Ça.
Ben, on veut que ça soit différent. On veut pas prendre la place des invités. On veut les laisser parler, puis on veut apprendre de ces gens-là. Ouais. C'est tout carrément ça. Moi, j'ai pas la prétention de dire que je suis un intervieweur très bon, là, vraiment pas. Là. Steve est meilleur de ce côté-là, mais notre but, c'est pas d'interviewer. Je vais vous donner un exemple. Là, et pour certains de nos invités, on leur donne carte blanche. Avez-vous un sujet que vous voudriez discuter, carrément? Dans le cas de Frédéric, on avait offert de parler, de commencer le show, la première, avec le sujet de la droite 101. Mais par la suite, Frédéric Têtu, il pourra revenir avec ses propres sujets. Donc, on est vraiment bien ouvert. Puis le but, c'est justement ça. C'est de dire, on va avoir un 2 heures par semaine que vous pouvez écouter live ou en download, puis vous l'écoutez plus tard. Mais vous allez avoir vraiment un sujet qui va parler de ça sous différents angles. Des fois, ça va être plus... Les gens vont peut-être être plus à droite que d'autres. C'est pas grave, tu sais. Il n'y a aucun problème avec ça, là. Mais on veut vous faire entendre des gens comme ça. Puis,
En fait, tout ce qui va faire avancer le Québec de demain risque de se faire promouvoir par l'émission, parce que c'est ce qu'on veut. On veut faire avancer le Québec de demain.
On veut pas imposer rien. Notre but, c'est pas d'imposer nos vues. C'est juste de les exposer pour que vous puissiez les entendre puis les confronter avec vos visions. Puis dire, hey boy, OK, j'avais pas vu ça
oui,
comme
puis,
ça.
Il
ou...
y en a qui aiment ça, avoir l'opinion de certains animateurs, ainsi de suite, mais nous, on n'est pas ici pour... Notre opinion, elle pèse peu dans la balance. Ce qui est important, c'est que vous entendez le discours qui va être très riche en contenu des gens qui viennent ici. Bon, mon opinion, elle peut être pertinente pour ceux qui la partagent, mais encore là, moi, je pousse pas à... Et c'est pas un show d'opinion qu'on fait, en fin de compte, c'est vraiment un show de contenu. Je veux pas dire que les shows d'opinion c'est pas des shows de contenu, mais c'est ce qu'on va promouvoir avant tout, c'est ce que les gens ont à dire.
Moi, j'avais déjà entendu quelqu'un dire ou lu quelqu'un dire au Québec, il manque de shows, des shows d'opinion, il y en a beaucoup, mais il manque des shows d'arguments.
C'est ça.
Puis j'avais trouvé ça bien
argumentaire,
un show d'arguments. J'ai dit, ah, c'est bon. C'est peut-être un peu cette vision-là qu'on veut avoir là, dans le show. Donc, on espère que vous allez embarquer, que vous allez bien aimer ça. Là.
Ben d'ailleurs, on va débuter ce soir avec la première chronique. Je vais en profiter pour vous parler d'une chronique qui est puisée à partir du site web de connaitrelasuite.com. Et je vous invite à vous inscrire sur l'infolettre, donc parce que c'est une façon aussi d'obtenir les mises à jour et d'être informé sur l'émission. Donc, venez sur la page connaitrelasuite.com. Et ce soir, je vais parler d'une chronique qui est la chronique Vigilance citoyenne, parce que sur le site Internet, justement, sur une base régulière, je dirais tous les jours, on affiche... les nouvelles qui sont considérées par l'équipe de Connaître la suite comme des nouvelles qui méritent une certaine vigilance au niveau de monsieur, madame, tout le monde, parce qu'il faut comprendre, en tant que citoyen, on doit être vigilant. La semaine passée, on s'entretenait avec Claire Joly, qui est directrice générale à la Ligue des contribuables du Québec, et je pense que c'est important d'avoir des mouvements comme ça, des gens qui regardent du coin de l'œil un peu les dépenses de l'État, les choix qui sont faits par l'État. Et cette semaine, il y a un dossier très intéressant en lien avec un des ministères, un des nombreux ministères du gouvernement du Québec, donc la SAAC, qui est pris un peu, je dirais, dans un fiasco informatique. Et tout ça met au grand jour, je vous dirais, un peu les difficultés qu'on peut connaître justement dans la fonction publique par rapport aux appels d'offres. On a souvent entendu parler des fameux appels d'offres, des processus qui sont assez rigides par rapport aux appels d'offres-là, mais surtout, on a entendu parler à nombreuses reprises des processus qui font en sorte qu'on peut dévier du processus standard des appels d'offres parce que il y a toujours... l'homme est très imaginatif et je dirais que nos fonctionnaires le sont. Assez souvent, on essaie de trouver des façons qu'on pourrait utiliser pour éviter, soit une approbation d'un sous-ministre ou ici, on parle de l'approbation du Conseil du Trésor. Donc, imaginez-vous que la SAC, en fin de compte, la nouvelle n'aurait pas été une nouvelle en soi si il n'y aurait pas eu le problème avec le fournisseur en question. Mais là, étant donné les problèmes puis le fait que tout ça est rendu en justice, je vous explique un peu le contexte. En fait, la SAC a donné un contrat en appel d'offres à une entreprise de Montréal, donc qui s'appelle Etia SAP Solutions, qui était responsable de l'implantation de SAP, qui, dans le domaine des TI, est des solutions là, d'affaires, donc d'entreprise. Et par contre, ce qui est un peu intriguant dans tout ça, et c'est là que l'histoire se complique, c'est dès l'appel d'offres, étant donné qu'il y en a eu le contexte, par rapport à justement cette limite-là, ce plafond-là lié aux appels d'offres, le gouvernement devait systématiquement, donc la SAC devait, c'est-à-dire systématiquement, aller devant le Conseil du Trésor si l'appel d'offres dépassait le million. Donc, ce qu'ils ont fait, et c'est ce qui est un peu étrange dans ce dossier, mais on sait que ça se fait, le gouvernement a préparé l'appel d'offres avec cette firme. Donc, qui est Etia SAP Solutions. Donc, okay. Ils ont commencé par débuter le travail avec eux, on va dire du travail préliminaire pour construire l'appel d'offres. Donc, c'est sûr que effectivement, la firme en question qui avait préparé l'appel d'offres a gagné assez, on peut dire, haut la main l'appel d'offres. C'est sûr que quand tu participes à son élaboration, il y a des fortes chances. Fait que c'est sûr que en partant, est-ce qu'on peut critiquer l'entreprise? À sa défense, et quand je lis le dossier, eux, d'un, ils ont trouvé ça un peu spécial, effectivement, que le ministère leur demande de procéder à l'élaboration de l'appel d'offres, mais somme toute, ils se sont fait dire par les fonctionnaires que c'était chose courante. Donc, le ministère, assez souvent, utilise les services d'une entreprise pour construire un appel d'offres et qui n'exclut pas cette entreprise-là lorsque vient le temps, justement, de tu sais, c'est là...
Spécial. Hein?
C'est spécial. Fait qu'en partant, et c'est là qu'on parle d'une capsule vigilance, je me demande pourquoi, puis je pense que là, il y a un devoir aussi du citoyen de questionner le ministère, mais pourquoi que nos fonctionnaires, n'ont pas cette vigilance-là ou cette rigueur de dire, écoute, si j'élabore un appel d'offres avec une tierce partie, lorsque viendra le temps d'aller sur le marché pour aller chercher la meilleure appel d'offres, je vais exclure cette entreprise-là, tu sais, parce qu'à quelque part, nous, le payeur de taxes, on se retrouve avec peut-être une appel d'offres qui est biaisé. Encore là, dans ce dossier-là, je dis pas que l'entreprise en question avait commis, des erreurs ou avait frauduleusement peut-être influencé l'appel d'offres. Mais déjà là, en tant que citoyen, en tout cas moi, je sais pas si vous, ça vous préoccupe, je sais pas si toi, Danny, ça te préoccupe, mais de comprendre à la lecture que l'appel d'offres était, comme j'ai dit, écrite par la même entreprise qu'il gagne, mais ça, c'est pas le pire dans l'histoire.
Juste une affaire, c'est que cette firme-là a été payée pour faire l'élaboration aussi.
Oui,
donc ça s'ajoute au contrat qu'elle a obtenu.
Effectivement.
Donc, il y aurait peut-être moyen de éliminer ces gens-là, de dire, écoute, on te donne un contrat d'élaboration, mais tu pourras pas bider là, sur l'appel d'offres. Déjà, c'est un contrat en soi de le préparer, le contrat.
Tout à fait.
La demande.
Et là, quand on lit, et là, c'est les dirigeants de l'entreprise qui expliquent un peu que c'est pratique courante aussi au niveau de l'État d'aller en appel d'offres, puis de promouvoir, évidemment, ces contrats-là avec des petites entreprises. Parce que faut comprendre que, les ententes tarifaires, lorsqu'on va vers des méga entreprises, on peut arriver à ce moment-là en bout de piste avec des contrats qui vont être un petit peu plus élevés. Puis la nature aussi du contrat varie en fonction de la dimension de l'entreprise. Mais ce qu'il faut comprendre, pour une entreprise comme Etia SAP Solutions, on parle d'un contrat de 820 000. Pour eux, c'était vraiment une opportunité au niveau de leur entreprise très, très, très importante. Mais il faut comprendre que ces petites entreprises-là ont, c'est souvent, un capital de risque assez, diminué. Hein. Ils n'ont pas énormément de structure au niveau de leurs finances. Et pour eux, ça représentait aussi un grand risque financier par rapport justement à l'étendue du contrat puis à l'envergure du contrat et aux sommes investies. Et là, c'est là où le bas blesse pour cette entreprise-là, et c'est là qu'on se rend compte aussi que la SAC a beaucoup de difficultés avec ses processus internes, parce que l'entreprise a eu beaucoup de difficultés à livrer sa solution. Eux, ils mettent ça sur, évidemment, sur, ils mettent le tort sur la SAC, et pour avoir bon eu connaissance de certaines ratées de projets comme ça en TI à la SAC, on peut douter peut-être de l'efficacité de la SAC, effectivement, à mettre en place l'exécution de ces contrats-là, parce que il y a une structure administrative, il y a de la bureaucratie, donc ça a été très, très, très difficile pour cette entreprise-là, en fin de compte, de livrer son service, de livrer son produit. Et là, c'était des semaines, des mois interminables pour eux. Et c'est sûr qu'à un moment donné, en tant que fournisseur de services, si le client est pas à la table, si le client peut pas décliner la solution, puis il a beaucoup de difficultés à avoir une certaine capacité dans son infrastructure ou dans ses processus d'affaires, ben c'est sûr que l'entreprise a été tentée à un moment donné de mettre les points sur les i puis les barres sur les t. Et le gouvernement à ce moment-là a décidé de couper le contrat. Et bon, pour des raisons qui, somme toute, pour la SAC peuvent paraître évidentes, là, parce qu'il n'y avait pas eu le service, mais l'entreprise semble être de bonne foi et dit avoir un bon dossier qui prouve qu'elle a tenté par tous les moyens de livrer la solution. Okay. Et c'est pas des deux de pique. Je tiens à rappeler que cette entreprise-là avait livré le même genre de solution chez Pratt & Whitney, le CN, l'Agence du revenu du Canada, Petro-Canada. Donc, c'était pas nécessairement une entreprise là de coin de rue qui avait uniquement des petits clients. Là. Donc, il avait déjà livré ces solutions-là. Mais c'est drôle, quand c'est arrivé à la SAC, ils ont eu beaucoup de difficultés. En fin de compte, la SAC a été insatisfait des services, a coupé le service. Mais comme je dis, l'entreprise pour elle, c'est clair, net et précis que la SAC, par sa lourdeur administrative, n'était pas en mesure de vraiment répondre dans les temps voulus aussi pour décliner cette solution-là. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec une poursuite de 1,8 million qui va être évidemment débattu devant la Cour du Québec. Des procureurs, des juges, des avocats payés, même les contribuables. Donc, si on regarde le détail de la poursuite, je pense que l'entreprise en question a un dossier béton. Donc, je ne veux pas faire de pronostic, mais il y a de fortes chances qu'il l'emporte. Hein? Puis on s'entend que la poursuite est peut-être gonflée à 1,8 million. Ils vont peut-être s'en tirer pour 1,2 million, mais ça va coûter beaucoup plus cher que les 820 000 du départ, parce que ajouter les honoraires d'avocat, puis là, il a sûrement fallu aller en appel d'offres où on a sûrement un plan B, donc on va aller vers un autre fournisseur, parce que le besoin, j'imagine, demeure là. Et c'est ça. Mais en fin de compte, le citoyen, donc celui qui m'écoute actuellement et celui qui parle au micro, qui est moi-même, aujourd'hui, se retrouve avec une dette à long terme qui va être absorbée, à même les budgets de l'État. Donc, la vigilance, c'est très important, la rigueur. Et je pense que des fois, au lieu de regarder dans les coupures, on devrait regarder peut-être nos façons de faire au sein des ministères, voir un peu nos processus. Puis le processus d'appel d'offres, je pense que la gouverneure, ou pas la gouverneure, excuse, la vérificatrice, en a fait mention au niveau du fédéral. Je pense que le processus d'appel d'offres, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du domaine de la construction, puis des appels d'offres dans ce domaine-là, mais je pense qu'en général, les gens vont être d'accord pour dire qu'on devrait revoir ce processus-là, parce que c'est un peu ridicule de constater que aujourd'hui, le processus d'appel d'offres, d'un, c'est toujours le fournisseur le moins cher, mais on regarde pas vraiment le coût total d'un contrat. On regarde le coût d'acquisition, mais le coût d'entretien, ainsi de suite. Donc, je pense qu'en tant que citoyen, moi, ce qui me réconforterait, c'est que vraiment, le gouvernement, sans mettre une commission d'enquête, mais regarde un peu ce processus-là. Ça me réconforterait, et je pense que en tant que personne responsable, moi-même de mes finances, bon, je pense que j'aimerais bien aussi que mon gouvernement fasse autant au niveau de ses finances publiques et surtout de son processus d'appel d'offres, parce que faut comprendre que l'argent qui est dépensé assez souvent commence par une soumission ou un appel d'offres. À part les services internes là, des ministères où assez souvent toutes les, je dirais même maintenant les services dispensés par les ministères assez souvent vont en appel d'offres. Il y a beaucoup de sous-traitance au gouvernement. Puis je pense qu'il y aurait un manière, je pense, à regarder ça. Puis le Conseil du Trésor a son mot à dire là-dedans, je pense. Je veux pas ramener des approbations à tous les niveaux, mais je pense qu'on aurait intérêt. Donc, c'était ma capsule. Vigilance. On va faire une première pause. De l'autre côté, on va avoir deux autres sujets. Donc, on se retrouve de l'autre côté. Vous êtes à connaître la suite sur les ondes de XM 172 et du radiochoc.fm. Bon, ben c'est parti, mon Danny. Le premier stitch est fait. Pour toi. Non, mais... Écoute, décollé, je me sens toujours mieux. Plus confortable.
Ouais. Ok, t'avais l'air relax avant le show.
Ouais, mais... toujours une petite nervosité en début d'émission. On est de retour. Beaucoup de travail pour nous deux ce soir, comme on a dit...
C'est inhabituel.
Ça va être inhabituel, oui, effectivement. À partir de la semaine prochaine, si on parle deux minutes, ça va être beau. Alors, on est de retour et j'avais une autre capsule à vous livrer ce soir. Très intéressante, celle-là. Et je vous invite à consulter le site de l'Institut économique de Montréal, qui est une bonne source d'information. On a eu longtemps, l'Institut Fraser comme référence, mais là, je pense que on est choyé au Québec d'avoir l'Institut économique de Montréal. Ouais. Ils sortent de nombreux billets.
Ils sont très productifs.
Enquête,
recherche. Ah, c'est
incroyable. Hein? Oui. Des bonnes ressources derrière ça aussi, des gens très crédibles. Ils sont reconnus aussi, je lisais là, mondialement maintenant. Je pense qu'on est choyé et ça vaut la peine. Donc l'Institut économique de Montréal, donc c'est le IEDM, donc .org. Et à chaque mois, il y a une capsule économique qui paraît sur justement le site de l'Institut économique de Montréal. Et c'est assez simple. On nous présente 8 chiffres, mais 8 chiffres qui en disent très long. Le premier chiffre, 3 ans. 3 ans, qu'est-ce que veut dire 3 ans? Oh. De 97 à 2007, la dette fédérale, comme vous le savez, fut réduite de 102 milliards de dollars. Imaginez-vous que ça l'a pris 3 ans, donc de 2008 à 2011, pour l'augmenter de 107 milliards. Donc, 3 années pour défaire les efforts, donc les citoyens qui ont contribué à cet effort, donc de 11 ans, anéantis en moins de 3 ans. Donc, c'est un peu triste. De voir que, et là on parle de dollars qui coûtent cher aujourd'hui, hein, parce qu'avec les intérêts, la dette qui augmente, c'est assez exponentiel.
Ce qui est spécial, c'est que le 11 ans d'effort, c'est le Parti libéral du Canada, et le parti qui endette, c'est le Parti conservateur, celui qu'on devrait s'attendre à ce qu'il soit plus de droite, donc plus axé vers les économies. Puis ce qui est spécial un peu, moi j'avais eu des discussions à l'époque, on a vu que le Parti conservateur a dû faire, en tout cas, je ne sais pas s'ils ont été bien, bien forcés de le faire ou non, là, mais vu qu'ils sont minoritaires, ils ont souvent été l'objet un petit peu de menaces de faire tomber le gouvernement par les autres.
Donc, encore cette semaine, on l'a vu avec le vote sur la baisse du taux d'imposition.
Mm-hmm. Donc là, qu'est-ce qui arrive, c'est que on aurait pu s'attendre à ce que, je sais pas, moi personnellement, là, c'est sûr que je ne suis pas politicien puis je ne suis pas électoraliste, mais on aurait pu s'attendre à ce qu'un parti conservateur qui dit « Nous autres, on a une idéologie et si vous voulez nous forcer à ne pas être des conservateurs avec en nous imposant de dire « Si vous faites pas ça, on vous fait tomber. Si vous faites pas ça, on vous fait tomber. » Mais si ça avait été vraiment des idéologues, là, ils auraient dit « Nous autres, on va demeurer des conservateurs quitte à aller en élection pour le prouver. » Mais c'est pas ça qui se fait. À chaque année, les conservateurs plient, essaient de faire des consensus pour pouvoir sauver leur gouvernement. Ça, je trouve ça plate. Parce qu'ils pourraient dire, on est des conservateurs, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne pour gérer l'argent public. Et ça sera à vous, Parti libéral, ou à vous, NPD ou Bloc, de prouver que notre méthode, c'était pas la bonne. Vous voulez nous faire tomber alors que nous, on gère en bon père de famille. C'est vous qui allez avoir peut-être des problèmes électoraux, mais non, ils plient. Il n'y a pas d'élection. Finalement, c'est plus un parti conservateur. Puis en 3 ans, ils nous ont mis dans cet état-là à côté de la dette publique.
Mais j'entends aussi les gens qui vont dire « Ah, mais le contexte économique, étant donné les difficultés du système américain, 2008, 2011, les États ont injecté beaucoup d'argent. » Donc, j'entends déjà ces gens-là, mais somme toute, dites-vous que ces 11 années-là d'efforts sont disparus. Un autre chiffre.
En 3 ans.
Oui, en 3 ans.
Le chiffre, c'est 3.
Un autre chiffre, 0,31%.
Ah, ça je sais.
Un chiffre qui paraît très maigre, mais dites-vous que 0,31% correspond à l'augmentation je ne suis pas sur la bonne nouvelle. C'est 2,3%. Ça correspond à l'augmentation des gens qui ne paient pas d'impôts. Donc, on est rendu au seuil, imaginez-vous, en 2008, à 39,6% des contribuables qui ne paient pas d'impôts.
Au Québec?
Au Québec. Okay. Donc, c'est ça. L'augmentation, c'est 2,3%. Ça veut donc dire que si la tendance se maintient, on va franchir le 40% et on s'approche dangereusement, je dis bien dangereusement, quand une société a 50% de sa population qui ne paie pas d'impôts, et quand on implante des mesures et qu'on nous fait croire que le retour sur investissement va passer par les impôts, on voit déjà les difficultés qui s'en viennent. Mm. 0,31, c'est quoi? En fait, c'est en 2010, les contribuables du Québec ont donné 0,31% de leur revenu total à des organismes de bienfaisance. Donc, cela place le Québec en 63e position. Donc, ça, c'est sur les 64 provinces, territoires et États, OK, des États-Unis. Donc, ça veut donc dire qu'on est avant-dernier. Donc, on n'est pas si généreux qu'on pense. Ceux qui sont les plus généreux, c'est le Manitoba avec 0,94%.
Le Manitoba?
Ah, oui. Ah. Donc, c'était un autre chiffre. L'autre chiffre intéressant, 60e. Ben, qu'est-ce que 60e? Et c'est la position du Québec. Bon, encore là, versus les États américains, les provinces et territoires, par rapport à son indice de liberté économique. Okay. Donc, encore là, on est pas loin. On n'est pas loin d'être bon dernier. Mm. 18,8 semaines. Qu'est-ce que ça représente? En fait, c'est le temps médian d'attente au Québec entre, bon, évidemment, la rencontre d'un omnipraticien et le traitement. Versus, si on se compare encore avec nos voisins de l'Ontario, ce qui correspond à 4,8 semaines de plus. Donc, en moyenne, là-bas, c'est 14 semaines et nous sommes à 18,8 semaines.
Donc, c'est un gros mois.
C'est un gros mois de plus.
Wow.
Moins 38%. Ça, elle est intéressante, celle-là. C'est le salaire moyen des 100 dirigeants de grandes entreprises les mieux payés a chuté de 36% entre 2007 et 2009. Donc, wow. Oui, dernièrement, on a vu des nouvelles à l'effet que les dirigeants se votent ou, bon, se donnent certains bonis, mais dites-vous que en 2007 et 2008, 36% de chute. Donc, c'est peut-être normal que ces gens-là veulent peut-être compenser cette perte-là. Donc, dites-vous que c'est énorme.
Ben, c'est 37. Énorme. Est-ce qu'ils ont perdu 36% de leurs ventes?
Non. Et on dit qu'au cours de la même période, le salaire moyen des travailleurs a augmenté de 3,78%. Donc, c'est un écart de tout près de 40%. C'est ça, vous allez me dire, ces gens-là sont pas à plaindre, donc des millions, des centaines de milliers de dollars, mais somme toute, le chiffre est révélateur. Mm. Autre chiffre, 60%, et celui-là est encore plus intéressant, et je salue vraiment Éric Duhaime qui en a fait aussi des bonnes chroniques, je dirais, par rapport à l'événement du Réseau Liberté Québec et dans les journaux, par rapport à l'âge de la retraite au Québec et notre système de retraite. Donc, dites-vous que 60%, à quoi ça correspond? Ben, c'est les nouveaux retraités du secteur public âgés de moins de 60 ans. Donc, imaginez-vous, au Québec, présentement, 60% des gens dans la fonction publique prennent leur retraite et ont moins de 60 ans. Comparativement au privé, on parle de 32%. Donc, l'écart est énorme. 32% des gens qui, dans le secteur privé, ont moins de 60 ans et vont à la retraite. Et si on se compare, encore là, avec l'Ouest canadien, ben on parle de 40% des fonctionnaires qui prennent leur retraite avant l'âge de 60 ans versus le Québec, qui, lui, est à 60, comme j'ai mentionné. Parlant de retraite, si on rehausse l'âge de la retraite et qu'on la passe à l'âge de 67 ans, donc de 65 à 67 ans, on parle de 15 milliards de dollars en économie par rapport aux primes qu'ils ne seront plus versées à ces gens-là. C'est beaucoup d'argent. Donc, pour ceux qui pensent que les retraites coûtent pas cher à l'État québécois ou au gouvernement canadien, on parle d'énormes montants et on parle de gens qui, dans la fonction publique, de plus en plus, vont à l'âge de la retraite avant même les 60 ans. Donc, c'est révélateur d'une situation. Je ne sais pas si ça sonne la cloche pour vous. Moi, ça la sonne. Puis je vous invite d'ailleurs à aller consulter le site de l'Institut économique de Montréal parce que des chiffres comme ça, il y en a pour tous les mois. Et là, c'est ceux que je viens de vous dévoiler. C'est ceux du mois de février. C'est à ton tour, Danny.
Ah oui?
Oui.
À mon tour d'y aller.
À ton tour d'y aller.
Ben, c'est bon. Et moi, avant de commencer, j'ai vraiment besoin de me mettre dans le bain, là, d'être dans l'inspiration totale. Donc, je t'ai donné un extrait et j'aimerais ça que tu me démarres ça, s'il te plaît.
Thank you.
Dieu. Ah là, je suis inspiré, Steve Lynch.
Ah oui?
Tu m'as starté. Ceux qui n'avaient pas reconnu, c'est quoi ça? C'est de la musique, quelques tunes du film La Mélodie du Bonheur.
Oui, parce que ta chronique s'intitule Le Bonheur.
Moi, j'ai intitulé ça La Nationalisation du Bonheur.
Oui.
Et vous allez voir que quand je fais mes chroniques, c'est souvent... ça passe souvent d'une interrogation. Tu dis, voyons, qu'est-ce qui se passe dans le monde présentement? Et je trouve que de plus en plus, on a des gens qui utilisent le terme bonheur. Et j'ai une question pour toi. Je veux savoir, tu te rappelles, il y avait un lock-out à Québec aussi pour le Journal de Québec. Hein? On parle beaucoup du lock-out du Journal de Montréal, mais il y a quelques années, il y avait un lock-out au Journal de Québec. Et un vendredi soir, il y avait eu l'incendie du manège militaire.
Oui, effectivement. Oui, je me souviens de ça très bien.
Et pour publier le Journal de Québec, ben probablement qu'ils utilisaient plusieurs gens du Journal de Montréal pour publier faire leur édition. Et le lendemain de l'incendie du manège militaire, te rappelles-tu quelle était la première page du Journal de Québec le lendemain?
J'ai pas autant de mémoire.
Moi, ça m'avait frappé. J'avais fait un article sur mon blog, tu peux être sûr. On parlait le lendemain, donc il n'y avait pas les vrais gens de normaux qui travaillent au Journal de Québec. Donc, c'était des gens...
Des cadres.
Des cadres. Le lendemain, c'était un gros... Ça prenait vraiment trois quarts de la page. Là, vous allez vous en souvenir. Hein. Trois quarts de la page, et c'était écrit « Sainte-Julie, la ville du bonheur ».
Non. Mais je vais me faire un devoir d'aller dans les archives.
Je sais pas si on peut retrouver ça, là. Et c'était une grosse page avec une espèce de panneau routier. C'était la sortie Sainte-Julie, dans le fond. Là.
Ah, OK.
Et là, il y avait eu l'incendie du manège militaire à Québec, l'événement, là. Puis c'est pas que l'événement s'était passé après minuit, là. Non, l'incendie a commencé vers... un petit peu avant 21h, je pense. Donc, il y avait le temps en masse d'envoyer des journalistes et de faire un article complet. Mais finalement, c'était Sainte-Julie, la ville du bonheur. Ça venait de où, ça? Ça venait que il y a une personne qui a parti ça au Québec qui s'appelle l'Indice relatif du bonheur. Vous pouvez aller chercher. Je pense que c'est justement ça le nom du site Internet. L'Indice relatif du bonheur. Donc, ça m'a fait réfléchir parce que depuis ce temps-là, il y a eu plusieurs références aussi au mot bonheur et je t'ai amené deux extraits. Donc, le premier extrait est très connu et juste pour vous pomper en ce vendredi soir, de vous mettre de mauvaise humeur, on va réécouter M. Raymond Bachand, notre ministre des Finances, qui nous parle du bonheur. Donc, par ça.
Alors, à travers ce débat budgétaire et de finances publiques, il faut donner une finalité à nos actions aussi. La finalité, c'est pas d'équilibrer le budget. La finalité, c'est d'être heureux comme peuple.
Donc, c'est pas exactement le mot bonheur, mais là, il faut qu'on soit heureux comme peuple.
Au diable les dépenses.
Au diable les dépenses. Là, tu dis... Moi, quand il a dit cette affaire-là, la première réflexe que j'ai eue, c'est de dire... Il mériterait d'être congédié, ce gars-là. De faire une déclaration aussi incroyable. Et si vous allez sur YouTube ou vous recherchez cet extrait-là, je vous invite à regarder. Raymond Bachand, il était... en train de jaser en conférence de presse. Et derrière lui, il y a Clément Gignac, le ministre du Développement économique. Et de l'autre côté, c'est Sam Ahmad. Et regardez la face de Sam Ahmad lorsque Raymond Bachand dit sa connerie. C'est priceless, comme on dit en anglais, là, de voir la face d'Ahmad. On voulait dire, il n'a pas dit ça, lui. C'était quasiment une face de dire « maudit cave ». C'était incroyable. tu le vois se virer à la tête. Tu dis, voyons, il vient pas de dire ça. C'était épouvantable là-dessus.
Et d'après toi, c'était dans son texte, quasiment?
Non, ben on va en venir à ça. Je vais t'expliquer ce que, en tout cas, l'interrogation que j'ai. Et là, imaginez-vous donc qu'hier, un autre politicien a utilisé la formule du bonheur. Et imaginez-vous donc que c'est notre bon Régis Labeaume, lorsqu'il a annoncé le projet
du nouveau Colisée.
Pour la 20e fois du nouveau Colisée. Régis Labeaume a encore parlé du bonheur, donc on écoute ça.
Il faut bien voir qu'une entreprise privée, ça a comme fonction primaire de faire des profits. Hein? Puis nous autres, on a géré et généré du bonheur.
Qu'est-ce qui va faire le bonheur d'une plus grande partie de la population? Quel bien public peut faire plaisir à autant de monde que ça? Parce, excusez-moi, c'est parce qu'on a le droit de leur faire plaisir. On gère leur argent.
Et oui, on gère leur argent. On a le droit de leur faire plaisir.
Ben oui. Et là, c'est le bonheur. Donc, Régis Labeaume s'inquiète aussi de notre bonheur. Donc là, je me dis, non, il y a une accumulation de certains événements là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient, ça, l'effet là, que les politiciens pensent à notre bonheur? C'est-tu un nouveau phénomène? Et je me suis posé la question, dans le sens, vous savez, des fois, les gens, les politiciens, ils ont des rencontres internationales, des fois. Hein? Il va y avoir, exemple, une réunion où est-ce que... Bon, on comprend pas qu'est-ce que le Québec fait des réunions qui devraient avoir seulement les pays, mais bon, ça arrive souvent. Et, exemple, il peut y avoir des réunions où est-ce que plusieurs ministres des Finances se réunissent. Des fois, ça va être les ministres de l'Environnement. Dernièrement, je sais pas s'il y a deux semaines ou une semaine, il y avait un meeting sur l'UNESCO et la culture. Et à l'époque, j'avais fait un texte aussi là-dessus, c'est de savoir, puis je vous mets au défi d'aller voir ça à un moment donné, là. Dans le temps, c'était Lisa Frula qui était la ministre de la Culture au Canada. Bizarrement, il parlait toujours des rencontres à l'UNESCO pour la diversité culturelle. Okay? Et là, le mot à la mode, c'était diversité culturelle. Peu importe qui parlait, diversité culturelle. Puis quand on allait voir les textes officiels de ça, et je l'ai fait, c'est parce que ça m'intéressait, et je suis allé voir, puis je m'étais rendu compte que dans les textes qui étaient rédigés à l'UNESCO ou par le Canada ou par le Québec, c'était toujours des textes qui, finalement, ne parlaient jamais de la culture. Ils parlaient de l'industrie culturelle. Il n'y avait jamais de phrase là, qui pouvait dire le statut de l'artiste, c'est important que la culture. Tu sais, l'artiste lui-même n'était jamais évoqué, c'était l'industrie culturelle. Donc ça voulait dire, c'est pas... L'artiste, c'est son producteur, c'est son gérant, c'est la compagnie qui fait l'argent avec les spectacles, tout ça. Fait qu'on voyait qu'il y avait un certain discours mondial qui, dans le fond, se fout de la culture, mais qui veut avantager les big shots de la culture. Donc, on voyait ça. C'est ça. Donc, les discussions, ils se font. C'est international, puis tout ça. Puis là, je me suis même posé la question, y aurait-tu des rencontres internationales où est-ce que les gens ils sont rendus à créer le spin que c'est faut pas. Penser au bonheur? Et j'ai fait des recherches, mesdames, messieurs, et la réponse est, je peux pas dire si c'est le cas pour vrai ou non, mais il y a des différents pays qui, en même temps, ça commencent à s'intéresser au bonheur des gens, de leur peuple, de leur population, et ils en ont fait des commissions, comme des commissions d'enquête ou des commissions... Il y avait une commission la semaine dernière au Québec sur la syndicalisation et tout ça. Il y a des commissions qui se font. Et on commence à étudier, est-ce que le facteur bonheur devrait être pris en compte par nos gouvernements? Puis je vous niaise pas, là, je vous le dis vraiment. Donc là, c'est à se poser la question, là. Est-ce qu'on est en train de nationaliser le bonheur? Parce qu'on se souvient que dans les années 60, okay, Jean Lesage a été élu en 60, et en 62, ils ont décidé avec René Lévesque, ils ont dit, on aimerait peut-être nationaliser l'électricité. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, il me semble que c'est un gros projet ça, pour le Québec. On ne devrait pas arriver en plein milieu d'un mandat et dire en 60, on ne s'est pas fait élire avec un projet de créer Hydro-Québec, mais là, on le fait en plein milieu d'un mandat. Jean Lesage a dit, go, on part une élection. En 62, il a déclenché des élections et il a dit carrément dans un speech que vous pouvez aller voir sur les archives de Radio-Canada, très intéressant, un speech incroyable qu'on n'entend plus aujourd'hui de nos politiciens. Il explique exactement, sans spin médiatique, là, politique, rien, pourquoi qu'il déclenche une nouvelle élection en 62 pour demander la permission aux gens, êtes-vous d'accord avec notre projet de nationalisation? Donc là, est-ce qu'on sera en train de nationaliser le bonheur? Et si oui, est-ce qu'on va avoir un référendum pour nous demander la permission? Ça serait intéressant à aller voir. Donc là, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que le bonheur est en train vraiment d'intéresser les gens. Et entre autres en France, je ne sais pas si je vais présenter le... prononcer le mot comme il faut, il y a la commission Stiglitz qui a été lancée par le président Sarkozy. Et lui a décidé que peut-être que de juste étudier le produit intérieur brut, c'était peut-être pas suffisant. Il fallait peut-être regarder le bien-être de son peuple puis essayer d'en trouver une unité de mesure pour voir est-ce qu'on atteint nos objectifs en tant que gouvernement français pour rendre notre peuple heureux. Donc, ils ont vraiment fait ça. Donc, c'est la commission Stiglitz qui a été créée en 2008. Et on apprend certaines affaires en fouillant là-dessus. Donc, on dit que la commission Stiglitz a été nommée à à cause du nom. T'sais, ici, Bastarache, c'était le juge Bastarache, ouais, la commission. Eux, lui, c'est Joseph Stiglitz qui est ça. Et c'est né d'une proposition de Sarkozy le 8 janvier 2008. Et ils ont appelé ça la commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social. Donc là, ils mesurent le progrès social par est-ce que notre peuple est heureux ou non, entre autres. Donc là, leur défi, c'était de développer une réflexion sur les moyens d'échapper à une approche trop quantitative, okay, trop comptable de la mesure de nos performances collectives et d'élaborer de nouveaux indicateurs de richesse. Okay, donc là, présentement, on va étudier la richesse PIB, taux d'emploi, taux de chômage, tout ça. Mais là, non, ça prend quelque chose de subjectif.
Qualitative au lieu d'aller vers le quantitatif.
Exact. Donc là, ils s'en vont vers le subjectif et leur but, c'était de voir ce qu'on peut faire, entre autres, un indice du bonheur. En passant, l'indice relatif du bonheur, c'est pas le gouvernement du Québec qui a fait ça, c'est un particulier qui a fait ça. Il fait plusieurs sondages, là, plusieurs fois par année, là, sur différents sujets. Entre autres, à l'automne, il a fait, celui du Québec, il a fait une étude savoir, dans le fond, le bonheur versus l'arrivée des Nordiques, le retour des Nordiques à Québec. Donc, vous irez voir ça, c'est l'indice relatif de bonheur.com, je pense. Vous allez voir ça, c'est un Québécois. Mais pour en venir à ça, ben c'est ça. Donc, la France a organisé ça. Et les premières réunions ont lieu le 22-23 avril 2008. Et ils ont décidé de créer trois sous-groupes de travail. Le premier, c'était question classique de mesure du PIB, qui était présidé par Enrico Giovanni de l'OCDE. Donc, on sait pas n'importe quoi. Environnement et développement durable, présidé par Jeffrey Hill de Columbia University. Et la qualité de vie, présidée par Alan B. Kruger du Princeton University. Donc, au moins, il y a une ouverture. Ils ont été chercher des experts internationaux. Ce n'est pas nécessairement des Français qui ont fait ça. Donc, ils ont fait différents accès là-dessus. Je vous mentirais si je vous disais que j'ai lu le rapport, là, mais je ne dis pas que ça n'arrivera pas un jour. Là, mais là, je n'ai pas, j'ai pas eu le temps de lire ça pour l'instant. Mais c'est vraiment, on veut vraiment regarder cette façon-là. Donc, on regarde, oui, vas-y.
Mais tu es en train de nous dire qu'il ne faudrait pas se surprendre au Québec d'apprendre la mise sur pied d'une structure un peu comme ça, là, d'une commission qui pourrait aller sonder, parce que on a quelques évidences, là, et tu en as fait la démonstration par les deux extraits, que c'est un mot qu'on retrouve dans la bouche de nos politiciens.
Oui, pourquoi?
Donc, ils le disent ouvertement, là, la bombe, bon, on peut comprendre aussi, ça fait peut-être partie du personnage d'utiliser bon, cette approche dans son annonce, mais quand même, là, je veux dire, le ministre Bachand qui est allé, et je peux comprendre aussi la réaction de l'entourage, peut-être qui elle-même au sein du gouvernement est peut-être à couteau tiré par rapport à cette approche-là, mais on s'en va de plus en plus vers des choix difficiles. Est-ce qu'on est en train de mesurer justement le choix difficile versus le bonheur que ça peut procurer, c'est-à-dire à monsieur, madame, tout le monde? Est-ce qu'on est en train de vouloir gérer justement le mécontentement? Est-ce que c'est peut-être ça la question que je poserais, moi. Est-ce que le bonheur rime avec, inversement, par proportion, le taux de mécontentement?
Parce que ma question du départ demeure, est-ce qu'il y a une espèce de discussion qui se fait lorsque les gens se réunissent et que c'est rendu que le terme à la mode, l'avant-dernier était le développement durable? Maintenant, ce serait-tu le bonheur qui est discuté dans les réunions? C'est une hypothèse que je lance, c'est une question que je me pose, tu sais. Et puis, quand on voit que dans différents pays, on se pose la question sur le bonheur et que tu vois un Bachand qui a utilisé ce mot-là, tu dis... Parce que moi, quand il a utilisé ce terme-là, j'ai dit « ça n'a aucun sens. Où est-ce qu'il a pris ça? Quelle drogue il a pris? » De sortir une telle affirmation. Et là, on peut peut-être se poser des questions à voir qu'en 2008, il faudrait peut-être que je retrouve la date de la déclaration de Raymond Bachand. Où est-ce qu'il a pris ça? Quand est-ce qu'il a fait cette déclaration-là?
Oui.
Comme là, je vous dis que c'est en 2008 qu'il y a eu... ça a été déclenché en janvier 2008 par Sarkozy et que c'est quoi les dates que j'ai données tantôt, mais plus tard dans l'année, ils ont fait ça. A été mise en ligne en juillet 2009. Donc, le rapport a été publié en juin 2009 et les rencontres ont eu lieu en avril 2008.
Oui.
Donc, ils ont commencé là-dessus. Mais ça se demandait, y a-t-il une tendance mondiale au bonheur là-dedans? Et pourquoi qu'ils ont commencé à faire ça? Est-ce qu'ils ils se rendent compte que de dire, je sais pas, le chiffre PIB maintenant, est-ce qu'il fait peur aux politiciens parce que la dette versus le PIB augmente, puis ils essaient de trouver d'autres indicateurs? ça me surprendrait que les politiciens se sont rendus à se préoccuper de notre bonheur. Là. Pour vrai, là, tu sais. Je pense que c'est pas mal plus électoraliste et tout ça. Donc, il y a des questions à se poser de voir pourquoi le mot bonheur. Et là, il n'y a pas juste la France qui a fait ça.
Ah non!
Non, non, non!
Parce que des fois, ils peuvent être assez avant-gardistes parce que c'est quand même eux qui ont mis en place là, bien des systèmes qu'on peut connaître aujourd'hui, là, surtout exact. Dans le monde de la politique. Mais tu es en train de me dire que ça fait des petits, comme on dit en bon québécois.
Oui, ça fait ses petits. Et vous allez peut-être être surpris d'apprendre que en passant, j'ai le rapport devant moi, c'est juste que j'ai pas eu le temps de le lire là-dedans. Un rapport de 324 pages.
Oh, c'est quand même assez...
D'ici demain soir, je devrais en
finir.
Et non, ce n'est pas les seuls, madame, messieurs. Qui sont les autres pays aussi? L'Allemagne.
L'Allemagne?
L'Allemagne aussi ah, oui. fait ça. Donc, ce qu'on lit pour l'Allemagne, on dit, je vous lis le texte. Donc, une commission nommée par le Parlement allemand, doit élaborer un indicateur qui intègre notamment le bien-être. L'Allemagne a beau se féliciter tous les jours d'être redevenue la locomotive économique de l'Europe et de connaître une croissance XXL, donc extra, extra large, selon la formule du ministre de l'économie Rainer Brudel. Excusez ma prononciation.
Tu as sorti ton allemand.
Ses dirigeants s'interrogent néanmoins sur la pérennité de ce modèle. Et il y a deux autres pays aussi qui ont fait l'exercice ou qui sont en train de le faire. Un qui est peut-être surprenant pour ceux qui s'intéressent un peu à la politique internationale. La Grande-Bretagne ont élu des conservateurs dernièrement avec Cameron, je pense, qui s'appelle David Cameron. Donc, la Grande-Bretagne aussi a démarré ça depuis l'élection de Cameron là-dessus. Et l'Italie.
Ah oui?
Aussi. Donc, on dit après la France, la Grande-Bretagne et l'Italie, trois pays déjà engagés dans la recherche de nouveaux indicateurs de mesure de la richesse. Berlin a mis en place lundi le 17 janvier, donc de cette année, une commission chargée de réfléchir aux limites des mesures actuelles de la croissance économique allemande. Donc, c'est rendu France, Grande-Bretagne, Italie, Allemagne. Donc, déjà quatre pays qui, on dirait que les indicateurs actuels, les indicateurs économiques ou traditionnels ne font plus leur affaire, mais ils ont décidé d'arriver avec inclure le bonheur dans leurs outils de recherche et peut-être de comment ils veulent faire leur prochaine politique là-dessus. Hein. Donc là, on peut se poser des questions à savoir.
Ben moi, où ça me préoccupe, c'est que le bonheur, on s'entend que c'est. On peut avoir plusieurs interprétations.
Ben oui.
Et là, on touche directement aux valeurs des gens. Quand on parle de bonheur, c'est. Et c'est quelque chose. Et là, j'imagine que, bon, on pourrait peut-être discuter avec un philosophe. Il pourrait nous en apprendre davantage. Mais comment on peut en arriver à mesurer le niveau de bonheur? On parle pas d'un niveau de satisfaction par rapport à des services rendus. Là. On parle du bonheur.
C'est ça. Par rapport à quoi? Par rapport au service public?
Ben, c'est ça.
Par rapport à la vie au complet, en général, ou certains aspects de la vie. Et un pays que tout le monde a visité au moins une fois dans sa vie serait le premier pays à avoir essayé de mesurer le bonheur intérieur brut, entre guillemets. Et c'est le très connu, le Bhoutan.
Ah oui, le Bhoutan.
Tout le monde connaît le pays du Bhoutan. Ce qui a inspiré, on dit, l'Angleterre et tout ça. Donc, dans différents textes aussi, on dit, en Angleterre, David Cameron, qui a pourtant souvent de bonnes idées, a demandé au Bureau des statistiques de réfléchir à la mesure du bien-être général, prenant même en compte l'état psychologique de la population anglaise. Vaste programme. En blanc, très ironique. L'Italie veut des indicateurs non monétaires prenant en compte le degré de cohésion sociale, l'engagement des citoyens dans des associations caritatives, le niveau d'émission de gaz à effet de serre. Dans un inventaire à la Prévert, donc là, je lis un texte qui vient d'un site incroyable, je vous le dis, là, mettez ça dans vos onglets, ça vient du site Contrepoint, avec un S.org. Et l'Italie veut des indicateurs, non, t'as plus ça, je l'ai dit. La France avait déjà pris les devants en confiant à Joseph Stiglitz, le plus extrémiste de gauche des prix Nobel d'économie, le soin de remettre un rapport. La commission a été coordonnée par Jean-Paul Filoussi. Donc là, c'est vraiment rendu très populaire en Europe, de ce qu'on peut voir là-dedans. Et on se demande là, en quoi ça va accoucher. Qu'est-ce qui va accoucher de ces commissions-là? Est-ce que ça va dire en sorte, ouais, on est peut-être à deux, trois programmes sociaux près de réussir à atteindre la plénitude totale,
c'est ça,
le
l'échelle
bonheur.
Du bonheur.
C'est ça, qu'est-ce qui va arriver là? Donc on peut se demander qu'est-ce qui va arriver avec ça? Est-ce que le bonheur va devenir obligatoire? Qu'on dit dans le texte, hey, t'as pas le choix. Si t'es pas heureux, est-ce que tu vas être jugé comme étant quelqu'un, hey là, t'es en train de faire baisser notre indice de bonheur national ou notre bonheur intérieur brut? Tu sais, shake-toi, tu sais, pas de toi le cul. Comment, là, t'es en train de faire baisser l'indice national, un peu comme on essaie de faire avec, lâcher la cigarette, vous nous coûtez cher en système de santé. Est-ce que là, les déprimés vont être vus comme des parias qu'il faut ramener au bonheur à coup de pilule? C'est ce qu'on va voir là-dedans. Mais c'est de voir à quoi ça va accoucher, cette affaire-là. Et dans le fond, là, l'autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les hommes politiques veulent reprendre encore... on dirait que les hommes politiques veulent reprendre du pouvoir de plus en voulant s'occuper de notre bonheur personnel pour en faire quoi au fond?
Et justement, pour des gens comme nous qui prônons les libertés individuelles, la responsabilité... Je veux dire, j'espère que la seule chose qui... En tout cas, qui m'appartient... C'est une des seules choses qui j'espère que c'est mon bonheur. J'espère que je peux m'occuper de mon bonheur,
exact.
De mon propre bonheur.
Ah oui, quand on parle de ça, exact, de responsabilité individuelle.
Et si le gouvernement, pour certaines personnes, dont moi, si le gouvernement s'éloigne un peu de tout ça, ben pour moi, je vais être encore plus heureux et donc mon indice de bonheur brut va être plus élevé. Mais c'est quand même... un peu perturbant ce que tu nous dis là ce soir, Danny, là, avec ton indice de bonheur.
Je te shake, hein? Je t'avais dit que je parlerais du bonheur, mais tu pensais pas que je t'amènerais avec ça. Hein? C'est vraiment spécial.
Ben, je pensais pas que c'était rendu à ce point-là. quelque chose d'imbriqué dans les façons de penser de certains gouvernements. Écoute, tu ne m'as pas nommé nécessairement des républiques de bananes. Tu me parles de l'Iran-Bretagne, de la France, comme je te dis, qui sont assez à l'avant-garde aussi par rapport au système politique. L'Allemagne, hein, écoute, des cartésiens, des Allemands
ingénieurs, un peuple d'ingénieurs.
Ouais, c'est ça qu'on dit, qu'ils n'ont aucune émotion, qu'ils regardent toujours l'aspect technique des choses. Écoute, qu'ils sont en train de vouloir mesurer l'indice de bonheur brut. J'aime le terme, par contre.
Ouais, le bonheur intérieur brut.
Donc, on aura le PIB et le bonheur, le BIB.
Eh ben, exactement. Donc là, est-ce que c'est pour bientôt au Québec? On sait comment que le Québec aime l'Europe. Est-ce que c'est bientôt en train d'arriver? Et je répète ma question, est-ce que c'est ce genre d'exercice-là qui aurait inspiré la fameuse phrase de Raymond Bachand? La question se pose, je peux pas vous répondre à la question, mais c'est la question qui m'a inspiré cette chronique-là, en plus du timing de cet article de contrepoint.org que je vous conseille vraiment beaucoup. Donc, je pense que là-dessus, on pourrait terminer la chronique avec... une chanson qui nous rappelle le bonheur, vraiment.
Donc, on se laisse avec ça.
On se laisserait avec ça.
On fait une pause.
Ouais, je pense qu'on est dû. On est en pleine plénitude et c'est le temps ou jamais d'écouter cette fameuse chanson. Donc, on vous revient après la pause. Ah, c'est ça.
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu. Il y a des chansons dans le piano à queue. Il y a de l'espoir dans tous les yeux et des sourires dans chaque fossette. La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour...
One, 21 try. Something inside this heart has died. You're in ruins.
Vraiment heureux, là. Tu m'as rendu, là, de bonheur, là.
Ouais,
de bonne humeur. Ah, je t'ai dit.
Il y a de la joie dans le studio.
Ah oui, c'est full. Ils sont rendus, vraiment, aux limites.
T'es encore flabbergasté, c'est ça, ouais. Ce que je t'ai appris, là.
Hey, j'ai une petite chronique. On va trouver notre jingle, c'est ouais. Sûr. Petite chronique, je me souviens. Au Québec, on nous le reproche souvent d'oublier beaucoup le passé. Et de ce temps-ci, c'est à propos. Et surtout, si vous avez suivi le dossier avec notre maire, le maire de Québec, notre mégalomane, maire Labeaume, avec ses grands projets. Et on a déjà connu au Québec un mégalomane avec autant d'envergure et autant d'ampleur. Les gens de Montréal, j'espère que vous vous souvenez de votre maire aussi. Premier drapeau avec ses grandes idées.
Et qu'on dit connaître la suite comme nom d'émission, là.
Oui, hein?
C'est la suite de le drapeau, là.
C'est pas...
On est en train de la connaître ici, à Québec.
Oui, et écoutez, je vais vous passer un extrait. Ça dure 23 secondes, mais c'est du bonbon. Et pour ceux... Je m'excuse pour ceux qui n'ont pas eu accès hier, peut-être, à la conférence de presse, ou peut-être à des points de presse qui ont eu lieu, parce qu'il y en a eu de nombreux points de presse. Je pense qu'il faut être sur une autre planète au Québec pour ne pas entendre parler de ce dossier-là. Mm. Et ben c'est ça, en 72, 70, je pense, l'extrait que je vais vous passer, elle date de 70. Bon, le maire Drapeau qui était un peu challenger, un peu comme notre maire ici à Québec. Donc, on y va avec l'extrait où le maire nous explique comment il compte financer son stade, qui était déjà démarré au niveau de la construction. Donc, on est aux alentours de 72-71. Écoutez, c'est un chantier qui a duré là, bon nombre d'années. Et écoutez ça. Vous allez faire un parallèle direct pour ceux qui ont entendu hier les explications du maire.
Nous avons, par exemple, construit le stade des Expos. Et déjà, il prouve qu'il est rentable. Dans quelques années, il aura été payé par ses propres revenus. Les Montréalais sont plus riches d'un stade et ça n'aura rien coûté. Il aura été financé par la ville au moyen d'emprunts qui auront été remboursés sans imposer de taxes spéciales, simplement par les revenus du stade.
Donc, les mêmes choses qui ont été promises hier.
Incroyable.
Donc,
on nous prendrait des rires en canne.
On nous promettait un stade avec aucune conséquence pour les Montréalais, donc il y aurait... vraiment ses frais avec ses revenus, même ses revenus, et on n'avait promis aucune taxe spéciale. C'est le mot qu'on avait utilisé à l'époque, et souvenez-vous de la taxe spéciale, justement, pour payer le stade, qui, en bout de ligne, nous a coûté on peut plus dire le nombre de chiffres, parce que, je sais-tu, on met dessus les coûts liés au dernier toit, là, on frôle le 2 milliards avec ça, avec une estimation de départ qui était de 120 millions. Donc, pour tous ceux qui pensent et qui croient à l'honnêteté de nos politiciens qui voudraient notre bonheur, pour faire le lien avec ta chronique de tout à l'heure, et qui pensent que, par magie, ces gens-là vont réussir à peut-être nous convaincre du fait que il pourrait autofinancer un projet de ce genre en, bon, maximisant les revenus et qui nous annonce aucune hausse de taxes et surtout des impacts, somme toute, minimes sur le budget de la ville. Vous pouvez douter parce qu'il y a un maire, comme j'ai dit, un mégalomane du même type que la bombe qui avait fait les mêmes promesses.
Exact.
Et on parle d'il y a là 40 ans, mais je pense que c'est un copier-coller qui se répète aujourd'hui. Et 400 millions, est-ce qu'on peut déjà avouer aujourd'hui ou annoncer aujourd'hui qu'on va avoir un des dépassements de coûts? On s'entend?
C'est clair, parce qu'en un, ils vont dire que c'est bizarre. Hein? Moi, j'avais étudié l'aréna de Pittsburgh. L'aréna de Pittsburgh, là, ça a pris entre l'annonce qui allait faire la nouvelle aréna de Pittsburgh et le début des travaux, il y a eu à peu près un an et demi, tout simplement, entre les deux. Et à la fin, il y a eu des dépassements de coûts de 40 millions et on mettait ça sur le dos de l'inflation.
Oh oui.
Voyons, l'inflation, il y a donc bien de l'inflation non, dans les ça. Matériaux de construction. Voyons, l'inflation est à 2%. Comment qu'un stade peut passer de 280 millions à 320 millions en 3 ans et demi? Là? C'est pas l'inflation, arrêtez-moi ça.
Non, c'est ça, parce que les taux d'inflation se tournent aux entours, se tiennent aux entours du 2 ou 3%.
C'est toujours ça qu'on nous dit. Hein, ici, à Québec, on veut refaire, agrandir l'Hôtel-Dieu de Québec. Et la première estimée est à 170 millions. Et il a été annoncé 3 ou 4 fois. Là, il est rendu à 800 millions. Et on dit que c'est l'augmentation des coûts. Hey, come on, là. L'inflation est rendue à 400%.
Donc, on s'en est pas rendu compte. Donc, c'est pour ça qu'on peut affirmer aujourd'hui que les coûts vont être dépassés. Ben donc, oui. On va se retrouver.
Parce que c'est Infrastructure Québec, donc le provincial, qui va faire la construction.
Oui.
Donc, on sait, on a juste à regarder le passé des projets provinciaux québécois.
Ben, c'est ça. Et je me souviens. Souvenez-vous, s'il vous plaît, de tous ces dépassements de coûts. Et. Ce n'est qu'une partie des coûts aussi, l'édifice. Il y a autour de tout ça beaucoup de services, beaucoup de choses à mettre en place, que ce soit des stationnements, que ce soit des facilités pour amener évidemment le flux de voitures. Et donc, on va devoir déplacer bien des choses.
Les égouts actuels, est-ce qu'ils sont capables de prendre un nouveau stade qui pourrait loger plus 3000 personnes de plus que le Colisée? Est-ce que les égouts sont capables de prendre ça? T'sais? C'est sans fin, là.
C'est sans fin. Donc, et ça, assez souvent, écoutez, j'ai un peu d'expérience en gestion de projet. Je peux vous le dire qu'il y a toujours une marge d'erreur et ça, c'est des contingences qui sont là naturellement dans les projets parce qu'il y a toujours des choses. On ne peut pas penser à tout. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas y juger non plus de ces gens-là qui pensent à tout. Mais, comme on l'a dit, si on regarde par le passé et au Québec, je pense que sans dire qu'on est les champions dans les dépassements de coûts, parce que comme tu dis, il y en a ailleurs aussi dans le monde, des dépassements de coûts, mais on peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y en aura pas et on ne peut surtout pas promettre qu'il n'y aura pas d'effets négatifs sur le compte de taxes ou de taxes spéciales. Déjà, aujourd'hui, on parlait de taxes sur des billets, on parlait d'une taxe de 4$, mais ça peut finir en bout de ligne à des 10, puis des 15, puis des 20$ peut-être.
Imagine, là, à Québec, présentement, c'est le tournoi Pee-Wee.
Oui.
Et pour aller voir les Pee-Wee, un adulte, ça coûte 6$.
Oui, c'est ça.
Donc, rajoutez une taxe de 4$. T'es rendu à 10$. J'espère qu'ils vont avoir la décence de dire, bon, pour tel événement, on va laisser tomber la taxe, là. Pour certains événements, j'imagine la petite famille, là, elle ne payera pas 16$ de plus, la famille de 4 pour aller voir une game des Pee-Wee, là.
Et dans les archives, quand j'ai écouté, évidemment, on se promettait un taux d'occupation du stade olympique. Là, hein, on pensait le booker quasiment 365 jours par année. Mmh. C'est un peu ce qu'on annonce aussi avec un nouvel amphithéâtre ici à Québec. On nous promet, évidemment, un taux d'occupation là, record. Mmh. Et là, c'est comme si demain matin... tout le monde va vouloir venir donner un spectacle ou faire une conférence. Ouais. Mais ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que ce sont des estimations. Et comme j'ai dit, il y a des choses qui peuvent survenir. Je ne veux pas être pessimiste, mais je me souviens, était là pour vous rappeler, évidemment, le passé. Le passé, qu'est-ce qu'on dit? Il est garant de l'avenir.
Garant de l'avenir.
Hey, parlant de pessimisme... Les consultations, et la semaine passée, j'ai posé la question justement à Claire Jolie à savoir si la Ligue des contribuables voulait être présent à la table des consultations dans le cadre de... c'est des consultations prébudgétaires 2011-2012. Le ministère du Revenu qui veut avoir le pouls, peut-être mesurer l'indice du bonheur, en profiter pour mesurer l'indice du bonheur, donc le BIB.
Ça se pourrait très bien.
donc, les consultations qui vont avoir lieu prochainement.
Mike, ça, c'est déjà commencé.
C'est déjà commencé, hein?
C'est déjà commencé, mais dans le sens qu'il y a probablement deux volets, là. J'ai pas trouvé rien, mais c'est sûr et certain qu'il doit y avoir des consultations qui se font en personne.
Hein. Ouais, c'est ça.
Donc, CSN, CSQ, tout ça. Probablement qu'ils se promènent devant une commission pour aller vendre leur salade devant devant les gens du gouvernement là-dedans. Mais il y a une autre façon aussi, et j'invite, je pense que comme citoyen, on devrait avoir la conscience de dire, écoute, on peut s'exprimer. Quand on peut s'exprimer, il faut en profiter. Donc, il y a un volet interactif, peut-être pas interactif, pas le bon mot, un volet web.
Oui.
Des consultations qui est possible sur le site du gouvernement du Québec. Donc, si vous allez au site internet consultation.finance avec un s.gouv.qc.ca, vous allez arriver sur un site qui s'appelle consultation pré-budgétaire 2011-2012. Et le beau titre, c'est « Tourner vers l'avenir ».
OK.
Ah, les beaux termes de politiciens. Ah, ça fait spin politique pas mal. Et là-dessus, vous avez différentes façons de participer. Premièrement, c'est en trois sections. Donc, on dit, il y a la section « Je m'informe », où est-ce que vous pouvez avoir des détails sur la philosophie que Raymond Bachand aimerait amener dans le prochain budget. Il y a le volet « Je discute ». Le volet « Je discute », c'est un blog.
Ah oui?
Oui, c'est un blog. Où est-ce qu'il y a un texte qui est probablement écrit par un des milliers d'écrivains qui travaillent pour le gouvernement. Et vous pouvez aller commenter. Donc, vous pouvez aller poster vos commentaires par rapport au sujet qui est amené par les gens du...
Est-ce qu'il y a des modérateurs? Est-ce qu'on peut écrire ce qu'on
veut? C'est écrit que si quelqu'un décide que une réponse serait peut-être un peu trop vulgaire, vous pouvez signaler. Mais là, c'est quoi le mot vulgaire? Pour Régent Parent, le mot vulgaire, ça veut-tu dire pas penser comme lui ou ça veut dire ça? Donc, est-ce qu'il peut t'envoyer et me dire « Hey, enlevez-moi ce commentaire-là parce que ça fait pas mon affaire » ou... C'est vraiment juste les gens qui exagèrent puis qui dépassent les bornes, je sais pas. Mais il y a c'est écrit que tu peux signaler les commentaires qui font pas tant d'affaires. Et finalement, il y a un quiz. Pas un quiz, mais un sondage en ligne que vous pouvez répondre. Puis je vais te le faire subir.
Subir? Ouais,
moi, je l'ai fait cet après-midi, le test, et j'ai décidé que je te ferais passer le test. Donc, tu devras répondre de façon... franche,
mais c'est-tu le même censuré? Genre de sondage qu'on avait eu dans les grands quotidiens où on nous questionnait par rapport à notre niveau de connaissance sur la dette, l'environnement?
C'est vraiment sur vos opinions.
OK, c'est des opinions.
Des opinions de qu'est-ce que devrait être le prochain budget provincial. Et on sait très bien qu'encore cette année, ils vont nous écouter.
Donc, OK, oui.
Il y avait un petit peu d'ironie dans ce que je viens de dire. Donc, il y a 7 questions dans ce sondage-là. Et moi, j'ai voulu consulter toutes les questions, puis ils ont refusé. Il fallait que je réponde aux questions pour aller à la suivante, donc j'étais obligé de le faire. Mais c'est toi la vedette du quiz, c'est pas moi. Donc, je te pose les questions. Donc la première question...
Je me déshabille comme ça,
c'est ça. La mise à nu totale.
OK.
Et pas le choix, je t'oblige à le faire. Donc, la première question, on demande, considérez-vous important que le gouvernement maintienne son objectif d'atteindre l'équilibre budgétaire en 2013-2014, oui ou non?
OK. Mais là, moi, je suis assez critique quand on me pose cette question-là, parce que j'aurais quasiment une question à leur poser. Là, qu'est-ce que l'équilibre budgétaire? Parce que je lisais, c'est pas plus tard que cette semaine, qu'encore là, et Claire nous le disait, c'est très difficile aujourd'hui d'avoir, on va dire, les chiffres, les vrais chiffres équilibre-là. Parce qu'on peut, et les financiers sont tellement bons, même que ce soit pour vous, pour une entreprise, ou que ce soit pour le gouvernement, on le sait que les chiffres, on peut leur faire dire ce que l'on veut. Mmh. Okay? Donc, on va prendre, pour répondre à la question, il faut que je prenne pour acquis qu'à ce moment-là, l'équilibre budgétaire est un équilibre en valeur absolue. Donc, on est vraiment dans un mode où les dépenses sont à gauche et les revenus sont à droite, là, puis qu'il y a juste deux colonnes. Mmh. Qu'on reporte pas l'immobilisation à long terme, puis des manigances, là, comme je dis, là, financières. Mmh. Donc, oui, effectivement, ben oui. Puis je dirais même, plus qu'un équilibre, moi, le déficit zéro, ça me suffit pas. Là. Il faut trouver à augmenter nos revenus là, et en exploitant peut-être nos richesses naturelles, mais il faut capitaliser davantage sur nos richesses. Là. Mm-hmm. Le statu quo, tant qu'à moi, ça ne fait que continuer l'état où on est actuellement dans lequel on est pris, là, où on s'endette de minute en minute.
Exact. Donc là, si on... Écoute, j'adore ta réponse là-dessus. C'est que À un moment donné, il ne faudra plus se contenter d'équilibrer le budget. Il faut payer la dette à un moment donné.
Ben,
donc, ça prend des surplus. Et on espère que les surplus ne profiteront pas au gouvernement, aux politiciens pour faire de la surenchère ou de créer des nouveaux programmes pour par pur électoralisme. Là,
ben, c'est ça, comme tu le dis, moi, je veux pas leur donner la simple objectif. Elle n'est pas simple parce qu'elle est déjà assez complexe, mais je ne veux pas que mon gouvernement s'arrête à l'équilibre. Je pense que ça prend beaucoup plus. Mm. Ça prend une vision beaucoup plus long terme.
Exact.
Deuxième question.
Fait que tu passes bien l'examen. Deuxième question. Là, il y a une mise en contexte. En raison du vieillissement accéléré de la population au Québec, le bassin de travailleurs...
Accéléré, donc les gens vieillissent plus vite.
C'est... Ouais.
Non, je comprends. Démographiquement, les baby-boomers arrivent à la retraite.
Exact.
C'est ce qu'on veut
dire. Le bassin de travailleurs diminuera rapidement au cours des années à venir, ce qui pourrait avoir des effets négatifs sur notre économie. Que seriez-vous personnellement prêt à faire,
personnellement.
Que seriez-vous personnellement prêt à faire pour contrer ce problème? Donc là, je te donne des choix, puis tu as le droit à plusieurs réponses.
OK.
La première choix, retarder l'âge de ma retraite, donc personnellement, de ma retraite. Travailler davantage d'heures, donc comme Lucien Bouchard, travailler plus, il faut travailler plus.
Oui.
Ensuite, avoir plus d'enfants afin d'augmenter le taux de natalité. Ou autre réponse. Et là, dans la section autre réponse, le site, vous avez... Comme sur Twitter, au lieu d'être 140 caractères, vous avez le droit à 150 caractères.
Ah, OK.
Donc, mais vous avez le droit d'envoyer une autre réponse.
Une.
Donc, vous pouvez cocher les trois puis ajouter votre réponse manuellement. Donc, vous l'écrivez, vous avez 150 caractères pour répondre. Donc, je te répète les choix. Retarder l'âge de ta retraite.
Oui.
Travailler davantage d'heures. Et avoir plus d'enfants afin d'augmenter le taux de natalité ou autre réponse?
Bien, définitivement, moi, que l'aspect productivité, c'est quelque chose qui, tant qu'à moi...
Personnellement?
Personnellement, oui.
Est-ce que tu veux être plus... T'es capable d'être plus productif?
Mais à l'heure actuelle, c'est ça. Si je l'applique à moi, je m'investis énormément, je pense. Et je pense que toi aussi et que beaucoup de gens autour de moi. Fait que je me dis, c'est difficile pour moi de l'appliquer personnellement.
Donc, tu refuses?
Ben, je refuse. Dans le cas où j'aurais une possibilité de le faire, je le ferais. Mais là, je pense que je contribue déjà beaucoup. Mais mettons que je suis à 30 heures semaine demain matin, j'aurais un mal à l'aise.
Un malaise,
oui. Et pour moi, une semaine est assez doit être assez chargée. Là. Tu sais, des semaines de 30 heures, puis ceux qui veulent descendre à 3 jours semaine, pas 2 jours semaine, là, si vous vous pensez productif là, d'un point de vue collectif, là, vous ne l'êtes pas. Mm-hmm. Mais mettons que je trouve pas l'idée bête. Pour ce qui est de la retraite définitivement, je pense que d'un, c'est une question de santé mentale, de contribuer, de se sentir utile, puis ça veut pas dire nécessairement de travailler à temps plein, mais oui, une retraite partielle avec de repousser l'âge de la retraite, moi personnellement, ça me dérange pas. Je suis prêt pour 2 ans déjà là. Tu sais, de passer de 65 à 67, moi j'en vois pas de problème là. Okay. Et d'ailleurs, si on regarde les tendances dans le monde, beaucoup de pays ont déjà débuté ces mesures-là. Fait que je pense qu'au Québec, c'est bien qu'on pose la question. Moi, personnellement, je suis prêt à faire la démarche pour enclencher le processus. Restera à voir si nos dirigeants sont capables de le faire. Parce que, comme ils disent dans la question, le processus accélère de gens qui s'en viennent à la retraite. Est-ce que ces gens-là qui ont un peu plus à perdre, parce que tu sais, quand tu es à 20 ou 30 ans de ta retraite... 2 de plus, ça te paraît peut-être moins pire que si tu es à l'aube de la retraite et que tu as plus ou moins de sécurité financière. Okay. J'achète le A. Le B, bon, comme je te dis, il s'applique plus ou moins à moi. Mm-hmm. Et le C, c'est l'autre réponse.
Avoir
plus d'enfants, non.
Non.
Et bon, autre, ben, à ce moment-là, ça pourrait être effectivement de revoir peut-être nos programmes sociaux.
Ben, c'est ça, exact. J'aime ta réponse. Tu as pris moins que 150 caractères en plus pour le faire.
Ouais.
Mais c'est ça. Parce que moi,
j'aurais pu utiliser réingénierie de l'État.
Oui, c'est ça. Exact. Parce que moi, j'ai toujours eu. Je viens quasiment malin, là, sérieusement. Quand on voit les enfants comme étant. On le voit comme étant des chiffres.
Oui, une ressource.
C'est une ressource. Hey, on a besoin d'enfants pour payer nos programmes sociaux. Mais hey, garde, coupe donc les programmes sociaux à la place. Là. On a besoin d'immigrants pour pouvoir payer nos services sociaux. On est peut-être rendu à un point où est-ce qu'on a trop de programmes sociaux. Ils nous coûtent peut-être
trop cher.
Peut-être que on devrait pas toucher au panier de service, mais le rendre efficace.
Effectivement, j'aime ton...
Mais j'haïs cet aspect monétaire-là qu'on met sur la tête des immigrants et des enfants, tu sais. Hey, ah ouais, ça prend de la netteté, ben, on a des programmes sociaux à payer, voyons.
Et j'aime bien faire des analogies simples des fois, ça parle aux gens. C'est comme si on vous dirait demain matin, écoute, t'as pas les moyens de ta maison, ben tu vas faire rentrer une deuxième famille, tu sais. Vous allez vous mettre à deux familles et payer la mensualité.
Ben, très bon exemple.
Tu sais, je pense pas que les gens le feraient, mais c'est drôle, quand on arrive à des mesures sociales, on dit « Oh, faudrait augmenter le taux de natalité. » On met de la pression sur, écoutez, des gens qui sont même pas encore au monde. On les met au monde pour contribuer.
Ça, venez payer.
Ben, c'est ça. Puis le pelletage par en avant, il va falloir en faire.
Exactement ça. T'sais. C'est ça qui est spécial. Puis je suis pas en train de dire que je suis contre l'immigration. Là, si vous pensez que c'est ça que je venais de dire, vous êtes dans le champ. Je suis en train de dire que de mettre un chiffre sur l'immigration, dire on a besoin de leur main-d'œuvre, on a besoin. Tu sais, j'haïs ça. Tu arrives, tu dis ah, on manque d'enfants pour payer nos programmes sociaux. Si on n'a pas eu moyen d'avoir des programmes sociaux, mais ben, il va falloir les couper. C'est pas compliqué, là, tu sais.
Puis
j'encourage tout le monde à avoir 1000 enfants.
Et ce n'est pas avec...
Mais c'est pas pour ça qu'il faut les avoir.
Et ce n'est pas avec la question que tu nous as posée, la première question par rapport à l'équilibre, qu'on va pouvoir faire ça.
Non.
Ça prend plus que l'équilibre.
Exact.
Vas-y avec la troisième question. J'aime ton petit sondage.
Ouais, ça a de l'allure. Question 3. Pour combler l'écart négatif de productivité entre le Québec et ses principaux partenaires commerciaux, quelle action devrait privilégier
Donc, on parle des États-Unis qui ont en moyenne 2 semaines de vacances, qui contribuent à peu près 40 heures par semaine.
Oui, et c'est le principaux partenaires, donc ça peut être les autres provinces aussi.
Oui, oui.
Oui, c'est vrai. Prévoir, puis tout ça. Donc, quelques choix de réponse. Tu peux avoir plusieurs réponses aussi. Favoriser davantage l'investissement des entreprises. Améliorer l'éducation et la formation des travailleurs actuels et des futurs travailleurs. Stimuler l'innovation. Ou autre réponse, t'as encore le droit à 150 caractères.
Oui, mais je te dirais que les deux dernières réponses, mais oui, l'éducation, je crois beaucoup à ça. Aussi, l'innovation. La première, je suis pas sûr de la comprendre. L'investissement, qui investit, là?
Oui, exact.
C'est pas le gouvernement, là, j'espère. Là. C'est peut-être de mettre en place.
Oui.
C'est ça. Moi, je pense peut-être mettre en place des mesures qui vont, encore là, diminuer les charges au niveau des entreprises qui vont alléger les processus, les lois, les réglementations, les choses du genre. Ça, je suis pour ça. Si pour eux, investir, c'est des subventions cachées, j'ai une réticence.
Ben c'est ça, parce que là, ça permet ben des folies. Mettons qu'on répond « favoriser l'investissement des entreprises », on met ça dans les mains d'un gouvernement interventionniste comme au Québec. C'est... Leur donner, cocher ce point-là, ça veut-tu dire donner plus de subventions et tout ça? On peut penser que leur réflexe premier va être celui-là, alors que c'est pour ça que nous, on aurait peut-être en idée de dire comment qu'on favorise l'investissement.
Et d'ailleurs, on va avoir quelqu'un qui va nous parler de commerce international la semaine prochaine. On pourra lui poser cette question-là parce que, justement, la libre concurrence, les libres marchés, les entreprises, là, il faut leur laisser de la liberté. Donc, c'est pas au gouvernement à investir. Ces entreprises-là savent où investir, sont en mesure d'activer les leviers. S'il n'y a pas de lourdeur administrative, ils sont pas pris d'une réglementation, écoutez, ces gens-là sont capables d'aller frapper aux bonnes portes, d'aller chercher des investissements privés, d'aller dans les banques, ainsi de suite. Les gouvernements, là, s'ils peuvent juste soutenir cette liberté-là de la concurrence, du marché, puis de laisser ces entreprises-là... évoluer, puis de les laisser aussi acquérir de l'expérience, de l'expertise, puis ouvrir le marché à ces entreprises-là. Tu sais, au Québec, puis je dirais dans le reste du Canada, même les États-Unis le font aussi. On a tendance à les restreindre, puis à maintenant imposer soit des taxes ou des règles ou des règlements qui font en sorte que c'est... Les entreprises, là, par elles-mêmes, sont en mesure, je pense. Mais, tu sais, je veux dire, il s'agira de définir là, l'investissement dans ton choix de réponse, là, mais... Si c'est pour, comme je t'ai dit, alléger puis investir, oui, peut-être du capital de risque puis favoriser peut-être certaines exploitations minières ou des choses du genre, là, je peux comprendre. Là, si jamais on veut avancer dans le domaine de l'hydroélectricité, on veut mettre toutes sortes de, tu sais, des ressources comme ça, naturelles, je pense que ça prend, oui, des investissements, c'est des gros programmes, mais pas plus que ça. Arrivez-moi pas avec un système de subvention à n'en plus finir,
exact,
qui coûte des milliards à l'État québécois.
Donc, tu vois exactement là, ce que je voulais que tu vois, c'est que les réponses, les choix de réponses laissent beaucoup de place à l'interprétation.
Effectivement.
Surtout, comme je disais tantôt, pour un gouvernement qui aime intervenir puis se mettre le nez partout.
Ouais.
Tu sais, favoriser l'investissement des entreprises, ça peut être par une baisse d'impôts. Mmh. Ça peut être fait, ça peut être par des... on laisse l'impôt pareil, mais on donne des crédits d'impôt à la recherche et au développement. Il y a plein de façons.
Effectivement.
Comment qu'on peut favoriser l'investissement? Si peut-être, je vais te donner un exemple, je suis propriétaire d'une entreprise moi-même, et peut-être que si le gouvernement arrêtait de me compétitionner dans mon domaine, se tassait de là, j'aurais plus de revenus, puis je pourrais investir plus dans mon entreprise.
Ben
tu
oui.
comprends? Donc, c'est des phrases, c'est pas des pièges.
Est-ce que tu as l'impression, justement, qu'on nous met les mots dans la bouche? Parce que, tu sais, les choix multiples, les choix de réponse, des fois, ça peut... Le gouvernement peut tenter, je veux pas dire de manipuler l'information, mais tu sais, de dire, écoutez, regardez, voici ce qu'on a recueilli comme réponse, mais on s'entend que les choix multiples, il y a autant de ouais. possibilités
que de gens. Je déteste pas leur choix de réponse, mais... C'est leur interprétation
ouais,
qu'ils vont
ça.
En faire qui laisse la place à vraiment beaucoup. C'est très large comme interprétation qu'ils peuvent en faire. Puis comme je te dis, si c'était un gouvernement de centre-droit ou de droit, centre-droit ou droit, qui aurait ces réponses-là, il en déduirait peut-être autre chose qu'un parti comme le Parti libéral du Québec qui veut se mettre le nez partout dans l'économie. Donc, ce serait à voir. Donc, moi, c'est plus là que je me dis, oups, ça va être drôle de voir comment ils vont interpréter les résultats. Dans la question 4, quel devrait être l'objectif d'exploitation des ressources naturelles? Donc, plusieurs réponses possibles aussi. Est-ce que ça devrait servir à augmenter les revenus de l'État? Créer des emplois? Développer les régions où se trouvent ces ressources naturelles? Ou... une autre réponse en 150 caractères.
Mais tu sais, pour moi, il n'y a même pas de choix de réponse. Parce que c'est ce que tu me donnes dans les choix de réponse, c'est la conséquence directe par rapport à l'exploitation des ressources naturelles.
Mm-hmm.
Je pense pas que tu peux... Tu sais, que si tu exploites les ressources naturelles dans une région, que tu ne créeras pas de la richesse pour la région, que tu n'engageras pas des... Tu sais, je veux dire... Est-ce que le gouvernement doit s'impliquer là-dedans? Non. Doit passer à la caisse, doit légiférer, doit mettre les règles en place. Mais est-ce que c'est à lui à créer des emplois? Non. Surtout pas.
Non.
Si les entreprises ont besoin de gens, ils vont les créer, les besoins, les emplois. Puis les entreprises qui vont s'établir dans des régions, ils vont assez souvent aussi s'impliquer dans la vie régionale, dans la communauté. Je pense à Rivière-du-Loup avec Premier Tech. Je parle à des entreprises comme ça qui s'établissent. Là. Je veux dire, aujourd'hui, c'est des entreprises qui s'impliquent là dans ces régions-là. Puis oui, l'État en tirer des revenus, des droits peut-être.
Mm-hmm.
Moi, je pense qu'il faut. Sinon, si on exploite tout ça et ça revient pas à l'État, puis que ça reste uniquement dans le secteur privé, comme je dis, il faut pas non plus... tomber dans l'exploitation par le gouvernement.
Non, c'est ça.
Parce que sinon, on va créer encore des méga structures et le bénéfice... Oui, et le bénéfice va être moindre parce que... Puis je pense qu'on peut l'appliquer même à autre chose. La SAC ne pourrait qu'être là pour percevoir les redevances. Est-ce que le gouvernement a besoin de monter des méga structures, des méga ministères pour aller... non, je pense que la nationalisation de l'électricité, ça va. On peut s'arrêter là.
Mm-hmm.
Pas pour les nouvelles technologies. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, de toute façon, à l'échelle mondiale, puis on est capable de tirer notre cote-part.
Exact. Donc, tu vois qu'il n'y a pas un piège dans cette question-là, mais c'est comme tu dis, c'est évident que c'est les trois réponses. Ça va augmenter les revenus de l'emploi. On parle des ressources naturelles. Donc, c'est quoi le but? Augmenter les revenus de l'État, créer des emplois, développer les régions. Tu sais, si l'exploitation des ressources naturelles, on a vu avec toutes les discussions sur le gaz de schiste que le sous-sol appartient à l'État. Donc, si c'est l'État, si ça appartient à l'État puis ça reste comme ça, ce serait normal que l'État fasse des bons revenus qui ne donnent pas les ressources naturelles pour rien. Si par contre, le sous-sol appartenait au propriétaire du terrain, bien là, l'objectif serait différent. Ce serait le propriétaire du terrain qui dit « OK, tu veux creuser ici ». Tu vas me donner tant, sinon tu viens pas ici.
Mais je pense qu'on peut y aller sous forme de royauté. T'sais, on peut y aller sous forme de royauté. Puis à partir de là, l'État, je veux dire, n'a pas à s'immiscer là-dedans.
Exact. Donc là, c'est quoi le but de leur question? C'est assez.
Ouais, c'est ça.
Faudrait voir. Mais
est-ce qu'ils veulent nationaliser ces nouvelles ressources naturelles-là? Je dis nouvelle parce que le gaz de schiste.
Ça n'est
bon, puis il y a aussi bon toutes les éoliennes qu'on a la difficulté à démarrer, qu'on fait en partenariat. C'est-tu à cause que le gouvernement pense qu'il devrait repartir sur des grands chantiers d'exploitation, puis y aller avec la grosse quincaillerie gouvernementale, puis des grosses mégastructures là.
Mm-hmm.
J'espère que non. Je peux voir l'emploi, peut-être que pour eux, ils disent, bon, c'est un moyen aussi, si on fait pas de revenus, de créer de la richesse par l'emploi, mais encore là, ça peut être un piège, parce que créer de l'emploi, mais subventionner, c'est encore là.
Ouais.
C'est, faut faire attention. La création d'emplois, là, faut voir ce que le gouvernement retire.
Exact. Question 5. Là, ça va peut-être être plus difficile si c'est un visuel, là. Mais je vais t'aider, là, t'as juste à me le dire. Donc, on dit que la marge de manœuvre financière du gouvernement est très mince. Dans ce contexte, il doit établir ses priorités. Donc, selon vous, parmi les options suivantes, donc je vais te nommer 1, 2, 3, 4, en tout cas quelques options. Parmi les options suivantes, quels sont les 5 principaux enjeux auxquels le gouvernement doit s'attarder en priorité et quelle importance doit-il leur accorder selon un ordre de 1 à 5? Donc, dans le fond, il nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, il nous donne 9 choix. Il nous dit « Choisis les 5 qui sont prioritaires selon toi et classe-les par importance de 1 à 5, 1 étant le plus important et 5 le moins important. » Donc, si je te nomme la culture, l'économie, l'éducation, l'environnement, les infrastructures, la lutte contre la pauvreté, la santé, la sécurité du revenu ou le soutien aux familles et aux aînés. Donc, sur les 9, il y en aurait 5 à choisir. Donc, mais oublions qu'on les met dans l'ordre, là, mettons. Là. Les 5, d'après toi, là, qui devraient être prioritaires. Là, vu que
l'éducation, santé, économie, pour moi, ça va ensemble.
Mm-hmm.
Oui, c'est ça.
T'en manquerais 2.
Et les autres, toutes les mesures, je pense qu'avec une économie effervescente, si les gens sont bien pris en main par un système de santé qui les encadre, qui les supporte, le soutien aux aînés, peut-être.
Soutien aux familles, aux aînés.
Oui, aux familles, aux aînés, parce que c'est une valeur pour moi, la famille et les aînés. Je pense qu'il faut les aider.
Mm-hmm.
Bon, la culture, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui me reste?
Il reste les infrastructures.
J'ai pas nommé les infrastructures, oui.
L'environnement, la lutte contre la pauvreté puis la sécurité du revenu.
Oui. Non, je mettrais l'environnement. Je mettrais l'environnement.
Ah, tu me surprends.
Oui. Ouais. Non, ben, je mettrais l'environnement, je dirais... à différents niveaux, parce que pour moi, les infrastructures, l'environnement, tout ça, pour moi, c'est l'espace qu'on occupe. Pour moi, ça va de pair. Les infrastructures, j'imagine qu'ils voient les routes, les ponts, les choses du genre. Je pense que, tu sais, c'est ça. Je pense qu'il faut savoir qu'au Québec, on a un très grand territoire, on a beaucoup d'espace à occuper, puis je pense qu'il faut revoir peut-être la façon, effectivement, qu'on occupe l'espace, notre impact sur l'environnement, puis... C'est pas ça. Moi, je vois pas le côté green là-dedans, mais je vois plutôt le côté, justement, comment est-ce qu'on assure là, le développement, pas durable, mais le développement de nos communautés, de nos villes, de notre infrastructure. Tu sais, moi, quand je vois des fois des autoroutes ou des rues ou des ponts, tu sais, je les questionne. Est-ce qu'on sont aux trop bons endroits? Est-ce qu'on les fait pour les bonnes agglomérations? Je sais qu'au Québec, on voudrait tapisser notre province d'asphalte, mais je pense qu'à quelque part, on... Puis je dirais l'environnement. Tu sais, c'est difficile aussi, là. L'un est pas méchant par rapport à l'autre non plus, là. La culture pourrait être là, mais définitivement, moi, je pense qu'il y a des choses qui s'imbriquent dans autre chose.
Okay. Ouais, ben tu me connais, on a discuté avant Noël, l'éducation, moi, c'est le premier, c'est sûr.
Ouais.
Santé, deuxième, c'est sûr et certain aussi. Pour les autres, ben écoutez, c'est peut-être plus difficile, mais je peux vous dire que pour moi, la culture serait dernier. Là, dans un système où est-ce qu'on a des priorités à choisir, écoute, je pense que...
Mais la culture, ça disparaît pas. La culture, c'est là.
Non, c'est là.
L'État... Écoutez, là, la culture, c'est là depuis des millénaires. C'est pas l'État qui s'en occupait.
Non.
Je veux dire, je comprends aussi le principe de derrière tout ça, mais je pense que, effectivement, si on met les priorités aujourd'hui, là, ça peut passer au 9e rang.
Puis moi, j'aimerais ça, sérieusement, si c'était pas si compliqué à comprendre et à trouver toutes les données concernant les subventions à la culture, moi, je serais curieux de faire un calcul pour montrer aux artistes que la structure. De demande de subvention puis tout ça est tellement lourde que ils se rendraient peut-être compte que sans subvention, mais que si l'argent allait tout à eux au lieu de avec subvention, ouais, mais qui font vivre un producteur, un SI, un responsable des demandes de subvention, l'assistant à cette personne-là, le rédacteur, tout ça, il se rendrait peut-être compte qu'il y économiserait des centaines de milliers de dollars par année et qu'il se rendrait compte qu'une culture privée serait pas mal plus rentable pour eux en tant qu'artistes que d'avoir un système qui crée des emplois de patrons, de gérants, puis tout ça. Donc, ça serait vraiment un moyen, en tout cas. Moi, je serais curieux de pouvoir faire le calcul, mais c'est tellement compliqué leur affaire. Comme l'autre fois, on discutait sur MSN, j'étais en train de lire une des conventions collectives de l'UDA.
Oui, effectivement.
Je n'ai rien à comprendre. Je pourrais pas vous faire de chronique là-dessus. OK, dernière question maintenant. Là, c'est une question ouverte. Tu as le droit à 300 caractères.
Oh, 300.
Ah oui, là, c'est du luxe. L'objectif que s'est donné le gouvernement de rétablir les finances publiques exige une discipline budgétaire rigoureuse.
Oh,
cette rigueur est d'autant plus importante que notre réalité démographique modérera la croissance économique du Québec dans les années à venir. Dans un tel contexte, il est essentiel de faire les bons choix afin d'assurer la prospérité du Québec. Alors, question, selon vous, quelles actions pouvant contribuer à atteindre cet objectif devraient être retenues dans le budget 2011-2012? Donc, qu'est-ce qui devrait être les actions, vu qu'il faut être rigoureux dans le budget à cause des problèmes de la dette? Et de
ben moi, j'aime bien le mot... ils ont utilisé le mot « rigueur ». Mm-hmm. J'aime bien le mot « discipline », ça, c'est sûr. « Responsabilisation », je pense. Et somme toute, il faut avoir un plan. Il faut cesser de gérer un agenda politique. T'en as fait mention tantôt quand on a parlé justement du Parti conservateur quand j'étais dans la capsule économique, parce que quand on regarde, on a dit qu'en 3 ans, on a en fait brisé tout près de 11 ans de travail. Donc ça veut donc dire que maintenant, on doit établir des structures de gouvernementales, puis ça passe aussi par le changement de pouvoir, puis le sous-ministre, toute la structure qui fait en sorte que, je pense qu'il y a un paquet de gens qui ont plein de bonne volonté. Ils ont peut-être ce changement qui s'opère pour mettre en place cette rigueur, cette discipline-là, mais tant aussi longtemps qu'on gère des agendas politiques, qu'on n'a pas de vision vraiment long terme, et qu'on n'a pas de legs long terme, qu'on gère vraiment le quotidien, je pense que ça va toujours faire mal. Il y a des bonnes intentions peut-être derrière ce questionnaire-là, derrière les consultations, mais si on ne pousse pas davantage de plans stratégiques, qu'on n'ait pas une discipline puis une rigueur, je pense qu'on va passer à côté puis qu'on ne cherche pas à augmenter les revenus de l'État. Hey, ça a passé hyper vite.
Juste pour rappeler aux gens, là, faites votre devoir de citoyen, consultation avec un S, point finance avec un S, point gouv, point QC, point CA. Faites votre devoir, allez voir ça. Faites comme nous, on répondu au questionnaire.
Oui,
ça va vous aider dans vos réflexions.
Tu vois, on a fait l'exercice en plus, nous, à la radio.
Exact.
Donc, je ne sais pas si vous avez partagé notre point de vue. C'est pas plus grave que ça.
Ben non, on vous en voudra
le
pas.
Le but, c'était de vous démontrer un peu comment on peut faire l'exercice. C'était pas nécessairement de vous convaincre. Donc, ici Steve Martineau, Danny Quirion, voilà. La semaine prochaine. On se retrouve pour une autre émission de Connaître la suite. Soyez là. Beaucoup d'invités la semaine prochaine. Ouais. On va afficher ça cette semaine sur notre site. Donc, on vous invite au connaître-la-suite.com. Bonsoir tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine.
Bye bye.